Salut les amis de la saga! Je sais, vous n'avez pas l'habitude que les épisodes commencent comme ça. Normalement, vous avez le droit à votre petit générique que vous aimez tant. Mais cette fois, c'est différent, car j'aimerais vous parler de quelque chose. J'aimerais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Beethoven Wars. Et vous allez sûrement me dire, pourquoi tu nous parles de Beethoven, Sofiane? Et non, c'est pas la saga Beethoven, je vous vois venir. C'est parce que j'ai beaucoup accroché au concept du spectacle. Il mélange un gros côté science-fiction post-apocalyptique avec des inspirations manga et bien sûr du space opéra digne de la saga dont on ne doit pas dire le nom. Et ça se passe sur une planète éloignée et dévastée par la guerre, le tout sur fond de Beethoven. Juste dit comme ça, ça a l'air de déchirer. C'est un spectacle unique en son genre qui réunit tout ce que vous aimez dans la SF. Donc ça s'appelle Beethoven Wars, c'est pensé par la grande chef d'orchestre Laurence Equilbé et le réalisateur Antonin Baudry. Et ça se déroule à la scène musicale les 23, 25 et 26 mai. Donc 23, 25 et 26 mai à la scène musicale, et c'est ma grosse recommandation du moment. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver toutes les infos dans la description de l'épisode. Je vous laisse avec votre épisode de la saga.
Cela fait maintenant deux nuits que j'ai lu le livre à haute voix. Mon désir de comprendre et de communier avec l'autre côté n'aurait pas pu être plus mal avisé. Je fais ce dernier enregistrement pour prévenir ceux qui ont l'intention de parcourir ces pages malfaisantes. Le Naturum Bimento ne peut pas être détruit. Si vous le trouvez, enterrez-le dans notre coffre secret, car les mots que j'ai prononcés ont libéré une entité démoniaque, surpassant mon pire cauchemar.
Hello there.
You take the red pill.
Don't touch us.
Wingardium Leviosa.
Adria!
Your place, sir.
Get away from her, you bitch!
What? Too close?
Baby. Salut les Groovy Baby et bienvenue dans La Saga, le podcast qui analyse toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane Aitkassi et cette semaine avec mes invités, nous allons replonger dans le monde d'Evil Dead avec le dernier sorti dans la franchise, Evil Dead Rise. Je vous conseille bien sûr d'écouter nos épisodes sur les quatre premiers si vous les avez ratés. Et pour m'accompagner cette semaine, c'est un habitué de la maison. Vous le connaissez pour ses apparitions dans tous les cinémas pour présenter Godzilla actuellement. et dans tous les bonus de tous vos DVD aussi, ou encore chez Rokirama.
Et tous les magazines presse du monde.
Exactement. C'est le plus grand fan de mon chat. Coucou Fabien.
Ça va Sofiane?
Ça va très bien. Tu as interviewé le réalisateur du film.
Oui, Lee Cronin.
Lee Cronin.
Tout à fait, ouais.
Donc ça devrait être intéressant d'avoir ton point de vue sur la question. Et enfin, il est le co-animateur du podcast Jumpscare, qui parle de films d'horreur, comme son nom l'indique. Bienvenue Romain.
Exactement. Merci, bonjour. Ravi d'être là.
Et coucou.
Quelle est ta saga préférée? Ça fait longtemps que j'ai pas demandé ça.
Oh putain. Freddy.
Freddy? Parce que je te ferai dire qu'à la nuit Nanarland, tu m'as dit Hellraiser.
Oui, mais ça, c'était pour la vanne. Hellraiser, je l'aime bien, mais pas par passion, je l'aime par souffrance, en fait.
Tu m'avais dit, j'aimerais trop venir pour parler d'Hellraiser. Et je me suis dit, oui, bien sûr. Mais... J'ai dit oui, et dans ma tête, je me suis dit, on fera jamais Hellraiser.
pour la souffrance, mec.
Bah, c'est
pour
logique.
Ça va avec le film.
C'est Nobby.
Si un jour, tu tires du chapeau Hellraiser, oui, je débarque sans problème. J'assume mes paroles, je viens.
Je dois avouer qu'on n'a pas fait beaucoup de sagas d'horreur dans le podcast. J'ai fait les Screams. Et Evil Dead, c'est à peu près les deux seules sagas d'horreur que j'ai faites pour l'instant. Mais c'est parce le gros problème avec les sagas d'horreur, et on fait un épisode par film. Alors pour certaines, quand il y a 10 films, 12 films, tu te dis, ouais, ça commence à être un petit peu compliqué. Quoi. Ouais, alors que Evil Dead et Scream, il n'y en a pas encore tant que ça, quand tu réfléchis.
Ça va, t'avais 5-6 films. Ouais. Et la qualité se maintient, t'es pas dans un cas, on parlait d'Hellraiser, mais on peut aller dans les Leprechaun ou les Enfants du Maïs. Ou dès le premier film, c'est catastrophique et en fait, ça part en couille monumentalement jusqu'au 12e film.
Parce que le Vendredi 13 Challenge aussi, ça va être intéressant.
Ouais, ça c'est du boulot.
Non, il est dur celui-là.
Est-ce que t'as une saga préférée en dehors des films d'horreur, tiens?
Ouais, je vais dire une saga qui est interdite ici.
Non, à part celle-là.
À part celle-là. Désolé, je peux pas. Non, non.
Tu te prends pour une Jedi ou quoi?
T'es pas prêt du tout.
T'étais pas prêt pour le Watto Surprise. C'est une beauté,
pas
ça.
Pas du tout, il surprend.
Le Watto Surprise, tu t'y attendais pas.
Pas du tout. Non, non, non. Outre Star Wars...
Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent.
Oh putain. C'est dur de la placer. Outre ça, petite passion hors horreur, hors SF pour les Austin Powers.
Ah, voilà. Mais ça, on en a parlé dans le podcast en plus, c'est vrai.
Exactement.
Si j'avais su, je t'aurais invité, mais oui.
Mais oui, mais j'en parle très peu parce que c'est pas une franchise qu'on peut placer souvent dans les discussions cinéphiles.
Tu vois, il y a une époque, il y avait une fenêtre de 2-3 ans où tu pouvais faire que des références à Austin Powers et ça passait. Mais cette
Exactement.
Fenêtre s'est fermée il y a longtemps maintenant, ça fait longtemps.
Ouais, maintenant c'est fini, c'est fini. Et sinon, pour continuer, j'ai aussi une grosse passion pour Die Hard, voilà.
Ah, Die Hard, je ne l'ai pas encore fait, donc je note, je note.
Ah, voilà.
Saga de 3 films.
Je t'avais demandé ce qu'elle était ta saga préférée, et je crois qu'en posant la question, je réponds automatiquement à c'est Godzilla, je pense, ta saga préférée.
Et je t'avais répondu Baby Cart.
Voilà, ah oui, c'est... Baby Cart. Bon, est-ce que vous attendiez cette suite, enfin ce reboot ou c'est... Est-ce que c'est officiellement une suite ou
bon, ça se passe toujours dans le même univers en fait.
Oui, il y a le même livre.
Oui, voilà.
Il crée un multivers un petit peu là.
Oui, c'est ça.
Et vous l'attendiez ou vous aviez mis Evil Dead derrière vous depuis longtemps?
Pas bien, je te laisse l'honneur d'y aller.
Je l'attendais pas spécialement, mais quand il a été annoncé, bah, je l'ai attendu patiemment. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, nous irons. Et j'y suis allé. Voilà.
C'est honnête.
Il y a eu combien de temps entre le... Je devrais le savoir si j'avais fait des recherches.
Il y a eu 10 ans entre le film de Alvarez et celui-ci. Bon, après, je compte pas la série Ash versus Evil Dead. Ouais, mais il y a eu 10 ans au cinéma, il y a eu 10 ans d'écart. Ouais.
Moi, je l'avoue, je le dis directement, c'est la haute tech pour commencer. Le Evil Dead, un peu fun, c'est moins ma cam. Moi, j'aime bien le Evil Dead très sérieux, très gore, très premier degré. Donc, le film d'Alvarez, dans mes veines, hein, bien sûr. Et quand ils ont annoncé que ça allait repartir un peu dans ce délire-là, que la série, du coup, qui, elle, misait plus sur le côté fun, c'était un truc qu'ils ont fait. Et ils disent, non, non, on va repartir à zéro sur des bases plus proches du premier film. Et j'aime bien l'idée que Rémy laisse sa franchise à des petits jeunes. Ça a marché pour le Alvarez, que moi j'aime beaucoup. Donc je me suis dit, ouais, allez, continuez comme ça, pourquoi pas. J'en suis.
Tant que Rémy donne son accord, de toute façon, ça va, quoi.
Oui, après, généralement, il est assez flexible du moment qu'on respecte les bases de la saga, c'est-à-dire du gore, des Deadites et le livre.
Le Necronomicon.
Et voilà. Le côté, bien sûr, un peu confiné, un peu huis clos aussi, autant que possible.
Ça, une tronçonneuse et un shotgun,
c'est ça.
Et vous aviez pensé quoi de la série? J'ai dû regarder 2-3 épisodes, j'ai pas réussi à vraiment me mettre dedans.
Alors, moi j'ai un souci avec le Bruce Campbell moderne, c'est le Bruce Campbell qui est devenu un vendu et qui du coup fait son show dans toute la série, en mode « Eh, vous vous souvenez du Evil Dead que vous aimiez ?» C'est avec le clin d'œil caméra, limite, vraiment, ouais. Avec les One Punch Line... Bon, alors ça singe Sam Raimi dans la réalisation, mais en fait voir Campbell faire son spectacle pendant 3 saisons, j'ai trouvé ça dur, vraiment.
Alors moi j'ai aimé la série jusqu'à à peu près la moitié de la saison 2, et après quand ça commençait un petit peu à partir en pseudo introspection, t'es enfermé dans l'Asie et tout ça, j'ai commencé à décrocher en fait.
C'est vrai qu'il y a un souci de nos jours avec par exemple je pense à Schwarzenegger qui fait des vidéos sur YouTube pour dire « I'll be back » ou des trucs comme ça. Et...
Tu sais mieux le faire d'habitude.
« I'll be back
».«
Get to the chopper ».«
Voilà.
It's not a tumor, it's not a tumor ». Pardon. Ça faisait longtemps. Et là, je suis pas là. Là, si on me lance, je fais toutes les citations possibles de Schwarzy.
Tu fais le podcast en entier comme ça. Mais...
So close.
« You are one ugly motherfucker ».
Après, pourtant, le côté introspectif, c'est pas une mauvaise idée, je trouve, sur le papier.
Oui, bien sûr.
Qu'un héros horrifique, il est considéré comme une final girl, mais c'est un des mecs les plus cultes, on va dire, du cinéma d'horreur, se pose des questions sur son statut. C'est un concept qui est vachement intéressant. Mais ça va jamais loin à cause du format qui est un épisode de 20 minutes, donc tu vas jamais très très loin.
Ouais.
Et cet humour omniprésent qui fait qu'en fait, tout ce qui est dramatique, il le coupe sans arrêt par des vannes. Donc tu vas jamais très très loin là-dedans et c'est super dommage.
C'est vrai que de ce que j'ai vu, ça a vraiment l'air d'être à 200% de l'humour, quoi, avant tout. C'est intéressant qu'il y ait vraiment deux écoles, un petit peu, avec Evil Dead. Il y a les gens qui sont plus... regarder ça le dimanche en rigolant avec des potes, et il y en a d'autres qui sont plus attirés par le gore, quoi. Mmh. Et les films, le truc de bien, c'est que vraiment, on te propose ça... On propose un peu de ça dans chacun des films, en fait. On propose le mélange.
C'est un buffet, en fait.
Et il y en a d'autres qui sont plus qui penchent plus d'un côté que de l'autre. Et moi, je trouve justement que le 2 était très bien à ce niveau-là. C'est qu'il arrivait bien à mélanger le gore et l'humour de Bruce Campbell. Et c'est pour ça que c'est mon préféré, personnellement, parce que je trouvais que c'était vraiment le meilleur des deux mondes.
Et surtout l'humour de Sam Raimi, l'humour slapstick pur.
Oui. Ouais, peau de banane, comme
ça.
Ouais. Donc, parlons un petit peu du réalisateur. Enfin, Fab, tu veux un petit peu nous parler du réalisateur.
Ben, en fait,
Lee Cronin.
Lee Cronin, qui est un réalisateur irlandais, qui s'est fait connaître avec plusieurs courts-métrages, notamment un court-métrage qui s'appelle Ghost Train, qui avait remporté un prix à l'époque, le Méliès d'argent, qui lui avait permis justement de faire son premier long-métrage qui s'appelle The Hole in the Ground. En français, ça s'appelle The Only Child, l'enfant unique. Oui, encore une traduction.
Ça je ne comprendrai pas.
Ouais, non, mon
super traduction.
Non, mais en plus, Only Child, c'est un bon titre, hein, pas de problème. Mais c'est juste que pourquoi traduire un titre anglais en quelque chose
d'autre. Surtout que c'est littéralement ça, c'est vraiment un trou dans le sol. Hein,
heureusement, voilà. C'est pas Very Bad Child. Non, parce que là...
ça aurait été allé beaucoup trop loin. Mais voilà, toujours aussi, ce que ce film s'est fait remarquer. Il a fait le tour des festivals, notamment. Il était présenté à Sundance, aux États-Unis, début 2019. Et du coup, en parallèlement à ça, le film était projeté aux États-Unis dans des séances de presse, des projets de presse. Il allait être acheté justement par A24 aux États-Unis. Et c'est là qu'il y a un des associés ou une des associées de Sam Raimi qui voit le film et il dit il faut absolument que tu vois le film et que tu rencontres ce jeune réalisateur. Et du coup, c'est juste avant de partir des États-Unis, après avoir fait Sundance, que Lee Cronin rencontre Sam Raimi littéralement avant de quitter le sol américain pour avoir une...
Il allait avoir un contrat avec A24 et il y a Sam Raimi qui s'est pointé et qui a dit non, en fait...
En fait, All in the Ground était distribué aux États-Unis par A24.
Ok, distribué, ouais,
voilà.
D'accord.
Du coup, c'est A24 qui a assuré la carrière.
Parce que ça me fait rire que Sam Raimi le ship comme ça
non.
À A24.
A24 avait sécurisé le film pour les États-Unis. Du coup, Sam Raimi voit le film et du coup, il rencontre Lee Cronin. Et donc, du coup, ils ont une discussion de plein de choses, de plein de projets. Et Lee Cronin, je l'ai interviewé, m'a dit, en fait, c'est juste à la fin de la conversation que j'ai placé un petit « Vous comptez faire d'autres films Evil Dead un jour ?» Et Sam Raimi lui a répondu « Pourquoi ça t'intéresse ?» C'est là que ça a commencé.
C'est sympa, t'imagines. Voilà. Tu
aussi
rencontres,
simple que ça.
Ouais, voilà. Tu rencontres, je ne sais pas si c'est son idole, mais quand tu fais du cinéma d'horreur, je pense qu'il se classe bien. Tu lui poses la question et on te dit, écoute, tiens, prends les clés, ça doit être génial.
Ah, mais la goutte de sueur après.
C'est vrai que tu dois avoir un moment
c'est ça.
Où, tu sais, il pose quoi, pendant une minute, il ne bouge pas comme ça. Mais oui, donc lui, c'était un fan, j'imagine.
Bon, en tout cas, c'était dans sa trajectoire, en fait. Hein. Mmh. C'était tout à fait logique de poser la question et de prendre le projet direct. Hein. Je pense que quand on te propose de faire un Evil Dead et que tu as une idée spécifique en tête, tu y vas, quoi, tu réfléchis
pas trop. Puis tu es un jeune réalisateur qui essaie de t'en sortir, on te propose un Evil Dead. Sam Raimi te dit que t'es chaud.
Voilà.
Il y a quand même une sorte de conscience professionnelle à avoir.
Deuxième film
Evil Dead Rise, ouais, c'est son deuxième film.
Donc Sam Raimi a quand même ce côté à essayer de recruter le futur grand Sam Raimi. Et...
C'est ce qu'il fait encore d'ailleurs.
Ouais, c'est ce qu'il fait.
On parlera actualité tout à l'heure, mais il y a eu quelques news récemment. Il continue en fait à chasser du sang frais.
Il continue vraiment aussi à surfer sur la vague Evil Dead. C'est quand même fou parce que c'était un truc qu'il a créé. Je vais dire ça entre guillemets, mais limite dans son jardin. Et maintenant, ça fait 150 millions, 200 millions au box-office, si je ne me trompe pas, au niveau des chiffres.
Si on prend le dernier, il a coûté 17 millions de dollars de budget et il a fait 146 millions de dollars de recettes mondiales.
Ouais.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une bonne OP. Et pour Lee Cronin, c'était un carrière move absolument impeccable et magnifiquement géré.
Et on sait ce qu'il va faire après ?
Oui, ça m'échappe, mais je crois qu'il va faire un film qui se passe dans la neige, un truc comme ça. Il continue apparemment sur la veine horrifique, mais il refait pas Evil Dead, hein, ça c'est sûr. Mais toujours est-il que l'histoire est assez intéressante parce qu'il a commencé à développer le film alors que la pandémie de Covid venait tout juste de commencer. Mais entre-temps, Sam Raimi lui a proposé de réaliser des épisodes d'une série qui s'appelle 50 States of Fright, qui était pour une plateforme de streaming qui s'appelait Quibi. C'est une plateforme qui a duré deux ans. Et en février 2020, il rédige le premier draft de Evil Dead Rise. Et il a bossé sur le scénario sur cette période du printemps 2020. Et donc, ils ont terminé l'écriture du scénario en été, en juillet. Et ils ont vendu le film à New Line Cinema.
Mais c'est un peu un film confiné.
Voilà.
C'était enfermé avec totalement. Ta famille et t'as pas envie d'être enfermé avec ta famille, en fait.
C'est complètement ça. Mais c'est vrai que ce qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est que les locaux de Robert Tappert, donc le partenaire de production de Sam Raimi, le partenaire historique de Sam Raimi, sont en Nouvelle-Zélande. Donc du coup, Lee Cronin est parti tourner Evil Dead Rise en Nouvelle-Zélande.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs australiens.
Exactement, mais en fait, la série Evil Dead, Ash vs Evil Dead, a été tournée en Nouvelle-Zélande. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça remonte de l'époque des années 90 où Robert Tappert et Sam Raimi produisaient les séries Xena la guerrière, ouais. Hercule, tout ça. Et du coup, Robert Tappert s'est marié avec l'actrice de Xena. Oui, c'est sa femme.
Ah, je savais pas.
C'est son épouse.
Oui. Comment elle s'appelle?
C'est pour ça qu'elle a
Lucy Lawless.
Elle a un très grand rôle dans la série Evil Dead.
Voilà, c'est pour ça qu'elle joue un rôle central dans Spartacus, qui est la série Spartacus qui est produite par Robert Tappert, qui joue effectivement, comme Romain vient de le dire, dans Ash vs Evil Dead. Donc en fait, toute la production est localisée en Nouvelle-Zélande avec du staff technique néo-zélandais, ce qui fait que dans les faits, Evil Dead Rise est une production entre la Nouvelle-Zélande et l'Irlande.
Ah, c'est un drôle de mélange.
Voilà, même tout le film... qui est censé se passer à Los Angeles est entièrement tourné en Nouvelle-Zélande.
C'est Los Angeles ?
Ouais, mais tu sais, c'est le Los Angeles façon Dark City, façon Matrix. Tu sais, le Los Angeles crade sous la pluie.
Cyberpunk.
Voilà.
Mais c'est vrai
qu'on voit de plan.
Ouais, c'est vrai qu'il pleut pendant le film.
Les éléments sont déchaînés, il pleut, il y a le tremblement de terre.
Parce que non, à Los Angeles, il pleut très rarement. Il y a plus souvent des tremblements de terre que de la pluie, en fait.
Mais là, c'est une grosse nuit de pluie. Ouais. Et donc, en fait, le film a été essentiellement tourné dans un hangar, où vraiment, ils ont aménagé tous les décors dans un hangar. Ils ont fait un gigantesque décor de l'appartement. Là. Et du coup, l'immeuble qu'on peut voir là, dans quelques plans du film, c'est un immeuble de Auckland.
Ah, c'est un vrai immeuble ?
Ouais, mais je crois qu'il faudrait que je...
J'avais limite l'impression que c'était une maquette un petit peu.
Ouais, c'est un vrai immeuble.
Ça ressemble à un faux immeuble, en fait.
Oui. Mais quand tu regardes le Flatiron à New York, par exemple, tu peux aussi penser que c'est un faux immeuble et ça existe vraiment. Tu sais, celui qui fait le coin. Donc ouais, comme tu disais, entre 15 et 19 millions. Mmh. Et ça a gagné 147 millions. Donc là, on est parti pour en bouffer du Evil Dead, hein, à mon avis. Là, on va avoir le spin-off, là, apparemment. Donc, il y aura un spin-off.
De Sébastien Vaninček.
Ouais. Sébastien Vaninček, notre fierté française, l'étoile montante.
C'est obligé.
Qui a été recruté. Ouais, c'était sûr.
Obligé.
Il n'arrêtait pas de dire depuis le succès de Vermine, peut-être remise en contexte pour ceux qui ne savent pas qui est Sébastien Vaninček, mais c'est un jeune de 34 ans qui a eu un bon buzz avec un film d'horreur qui s'appelle Vermine, sorti il y a un mois et demi, où des gens piégés dans un immeuble, là aussi d'ailleurs, font face à une invasion d'araignées un peu vénère. Et il avait dit que, à cause du buzz du film, il avait plein d'offres aux États-Unis. Que Jason Blum lui envoyait un mail directement, enfin, normal, tu vois, les Américains, dès qu'il y a un Français qui fait un film qui perd un peu, ils sont chauds. Et il avait dit, j'ai eu des offres de malade, mais pour l'instant, je reste en France et tout. Et puis là, écoute, je pense qu'il y a eu l'offre de trop. Et il est parti, du coup, pour faire un Evil Dead avec son compère d'écriture, Flaubert, du coup, pour les fans de Golden Moustache, une évolution totalement folle.
Florent Bernard.
Florent Bernard. Ouais, c'est ça. Donc, et là aussi, tu vois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, quand Sam Raimi t'appelle, tu dis oui.
Oui.
Il avait déjà vu le film il y a quelques temps parce que le film a été diffusé, je crois, dans un festival américain qui s'appelle le Fright Fest, sans être sûr que c'est à ce festival-là. Et Vaninček avait posté une photo de lui avec Sam Raimi. Donc, ouais. Je mets ma main à couper qu'en fait, ça fait un moment que le projet il est en soum-soum, tu vois, et que voilà, là c'est officialisé et qu'ils foncent, quoi.
C'était à prévoir, de toute façon, c'était. Je l'ai vu arriver gros comme une maison, moi. Mais je suis ravi, hein, je suis ravi.
C'est le destin de tout cinéaste français qui fait de l'horreur. Tu fais un film qui marche.
Il y a Sam Raimi qui arrive.
Les Américains viennent te voir.
Ça sonne à ta porte et il y a Sam Raimi qui t'a. Qui
est là. Ouais, tu vois, c'est ce qui s'est passé avec Bustillo Mori, avec Aja, avec Xavier Jans. C'est le cycle, c'est normal. Ouais. J'espère que ça se passera bien. J'espère vraiment qu'il va nous faire un Evil Dead qui tue.
Alors, on sait déjà un petit peu si ce sera dans son propre univers, si Bruce Campbell va revenir, ce genre de choses.
Neuf, on ne sait pas. On ne sait pas.
Moi, je vois trop le Evil Dead in Paris. Hein.
Oh, mais tellement.
Bah, attends, ouais, ce serait tellement. T'imagines
Evil Dead RERB édition, quoi. Ouais,
ou Evil Dead catacombe ou un truc.
Exactement. Ouais, non, mais tu peux faire, t'imagines, un Evil Dead dans le musée du Louvre avec un livre.
Tu sais, dans l'immeuble, voilà. Jim Morrison est mort.
C'est ça,
l'esprit de Jim Morrison qui t'attend.
Je pense qu'ils peuvent très bien exploiter une spécificité française avec peut-être des personnages occidentaux.
La grève.
Paris, la grève, les gilets.
Et les grèves.
La grève.
Non, mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses à faire. Hein. Franchement, il ne faut pas hésiter.
Bien sûr.
Ouais,
franchement, qu'il utilise justement la spécificité française pour balancer un Necronomicon dans Paris et on y va, quoi.
Il y a de quoi faire.
Vraiment, hein. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais surtout, Sam Raimi fait confiance à des cinéastes qui savent tenir leur budget aussi. C'est ça le nerf de la guerre, quoi.
Oui, parce que Vermin a coûté 4 millions et il ressemble à un film qu'on a coûté le double.
C'est clair.
Ah ouais,
ça. Ouais. Ouais, si tu le vois, tu comprendras, ça a vraiment de la gueule.
Mais c'est troublant de se dire que les deux films sont sortis la même année en plus. Hein. À quelques mois de séparation.
Qu'est-ce que vous pensez vu qu'on parle un petit peu de Raimi, qu'est-ce que vous avez pensé de son dernier film, Doctor Strange and the Multiverse of Madness?
C'est le dernier Marvel que j'ai apprécié au cinéma, qui est rempli de défauts, et plus on en apprend sur la production du film, plus on se rend compte que ça a été un enfer de production, et ça se sent, puisque j'ai l'impression qu'il y a 5 films différents dedans. En toute honnêteté, et je vais dire un truc un peu honteux pour la team cinéphile, mais j'ai pas boudé mon plaisir. Voilà, c'est plutôt fun. Pour un truc qui a l'air d'être infernal à tourner, ça se tient. Et il y a des idées que je trouve vraiment cool, notamment Doctor Strange qui fait une cape en fantôme à la fin. Quand tu as lu des comics des années 70-80, en fait, c'est un pur kiff, quoi. Voilà.
Et il y a des plans à la Raimi, le plan final avec l'œil qui s'ouvre, etc.
T'as des petits hommages.
C'est totalement.
Il y a Bruce Campbell qui fait son petit caméo aussi.
Avec sa main possédée.
Voilà, alors c'est un film Marvel avec un skin de Sam Raimi. C'est pas vraiment le Sam Raimi de Evil Dead et tout. Hein. Mais je trouve que ça se tient bien plus que certains n'osent l'admettre. Personnellement, en tout cas.
Bah, moi, je l'aime beaucoup.
Ouais.
Pour un film, on va dire, plus que compromis. Je trouve ça pas mal. En plus, il a le mérite d'être assez court. C'est un film qui fait 2 heures et qui est assez compressé. Oui, en fait, où on sent vraiment les compromis, notamment sur certaines scènes de combat qui ne sont pas tout à fait dignes de ce que Sam Raimi fait d'habitude.
Ouais. Mais il y a un combat avec des notes à un moment.
Oui, alors ça c'est super. Oui. Trop court.
Trop court.
Beaucoup d'idées sont sacrifiées, sont trop compressées, malheureusement, plutôt que. C'est des petits moments qui auraient dû être des séquences entières et beaucoup mieux conceptualisées. C'est après. Je trouve qu'il y a quand même la petite patte qui est là. Pour un film très compromis, je le trouve quand même assez sympa. Et ça a quand même fait plus de 900 millions de dollars.
Mmh. J'ai remarqué quelque chose, c'est que tous les Américains que je connais, ils n'aiment pas ce film.
Ah bon ?
Alors que tous les Français, on aime. Et j'ai cette impression qu'on aime plus Sam Raimi que.
Oui.
Je crois qu'il y a plus. En Europe, on a plus l'amour de Sam Raimi qu'ils n'ont pas forcément. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de la révérence envers lui ou quoi que ce soit.
C'est un peu la malédiction de beaucoup de cinéastes horrifiques, si tu regardes bien, qui sont plus traités comme des techniciens dans leur pays d'origine, ouais. Les États-Unis, et qui sont vraiment traités comme des artistes en France. Ouais. Carpenter l'avait déjà souligné, en France, il est accueilli en rockstar. Aux États-Unis, c'est un clochard, tu vois. Ouais.
Non, mais c'est clair. Raimi, nous, on voit comme un auteur.
On est comme avec beaucoup de réalisateurs.
Ça, un auteur.
Par exemple, avec Lynch, on adore Lynch. Oui, il y a certains réalisateurs qu'on adore en France.
C'est clair.
Polanski, par exemple.
Même maintenant, on peut le dire, Damien Chazelle. Hein.
Damien Chazelle.
Voilà. Okay.
C'est vrai.
Mais ça, c'est un phénomène vraiment typiquement franco-français.
Ouais, mais je me suis fait la remarque. Je me suis dit, c'est marrant, ils n'ont pas grandi avec Raimi. Ils ont tous le même âge que moi et ils n'ont pas forcément été marqués par son cinéma.
Mais on se penche assez peu sur le Sam Raimi producteur. qui produit des films d'horreur toujours très très tight avec des budgets très contrôlés et qui a finalement généré toute une économie de films d'horreur en parallèle. Tu vois, des films comme The Grudge, comme Crawl, même le film de dinosaure avec Adam Driver, hein, 65, ça fait partie de cette...
C'est lui, The Grudge ?
Ouais, le remake
de The Grudge. C'est lui qui l'a produit, ouais. Ça, il y avait Don't Breathe, l'accent anglais, Don't Breathe, merci, parce que l'accent anglais, c'est pas ça, tu vois.
Ne respire.
Qui a été un gros succès. Ne respire pas.
Very bad respiration.
Ouais, voilà, exactement. Crawl de Aja, avec le crocodile aussi, c'est lui. Donc, en fait, il a des mains partout, si tu regardes bien. Le parrain, un peu.
Moi, j'ai appris à l'aimer avec le podcast. En fait, je le connaissais très peu en dehors des Spider-Man, hein, je vais pas mentir. C'est avec le podcast que j'ai découvert et je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, mais il me fait vachement penser à Peter Jackson, je trouve, Sam Raimi. Ah bah, ils ont vraiment... Il y a quand même un lien, tu vois, entre les deux. Et ouais, c'est...
Ouais, surtout dans leur premier film, surtout, tu vois les similitudes, quoi. Ouais. C'est indéniable.
C'est deux carrières qui se font écho, et puis surtout, c'est marrant parce qu'ils ont réalisé chacun leur grosse trilogie au même moment, quoi.
C'est ça. Est-ce que Sofiane, t'as eu le temps de voir, du coup, d'autres films de Sam Raimi, en dehors des Evil Dead, du coup, pour la saga et les Spider-Man?
Attends, il me faudrait que j'aie une liste parce que attends, je vais
alors,
sortir ça.
Alors, je vais te le dire.
Non, c'est bon, je vais sortir ça. Je vous vois venir là. Sam Raimi, Characters by Sam Raimi. Hop.
Jusqu'en enfer, son retour à l'horreur.
Alors, qu'est-ce que j'ai vu? It's Murder, je l'ai pas vu. Crime Wave, je l'ai pas vu. Darkman, j'ai vu.
Ah.
Mais il y a très longtemps, parce que c'est un film oublié. Alors que non, mais c'est vrai, pas on. Nous, on s'en souvient parce qu'on est des vieux maintenant. Mais est-ce que les jeunes, est-ce que la nouvelle génération se souvient de Darkman après avoir vu le MCU, après avoir vu le DC, etc.
Compliqué, Darkman. Compliqué.
Grande question.
Ah, j'ai vu le film sur le magicien d'Oz.
Ouais.
C'était pas...
Oui.
Moi, j'aime. Pas... J'aime bien.
C'est le Sam Raimi vendu un petit peu.
Ouais.
Qui est des choses dedans visuellement très intéressantes.
Ouais.
Toujours. Hein. Les films, hein. Même si là, c'était vraiment... On débarque chez Disney et hop, on chope le chèque. Il s'est quand même fait plaisir.
Le remake soft de Army of Darkness.
Il n'a pas fait beaucoup de films, en vrai. Pour un mec qui a commencé en 77, il n'a pas, pas fait tant de films que ça.
Non, 77, non, il avait 17 ans. Hein.
Ouais.
Non, mais tu
t'y rappelles.
Tu vois par contre ce qu'il produit à côté. En fait, il fait au moins 2-3 films par an. Donc en fait, il bosse, mais juste...
Oui, il a produit Time Cop.
Ouais, produit en masse, ouais.
Il a produit Time Cop. Murder of a Cat.
C'est lui derrière les séries Hercule, Xena et tout aussi, qui ont duré longtemps.
Poltergeist.
Il avait produit aussi Chasse à l'homme de Van Damme.
Ouais, voilà, exactement. C'est pas Time Cop.
Il
a fait les deux.
Bon, bref, on va pas partir enfin, voilà. Sur Raimi pendant...
Raimi producteur, mais... t'en as pour 100 ans, là.
Une carrière d'une grande richesse.
Je propose qu'on passe au film.
Ouais.
Donc, on commence avec le Raimi shot dans les bois, hein, avec la caméra qui... On court avec la caméra, en gros, qu'on flotte. Voilà. Et en fait, non, c'est un drone.
Oui.
Voilà. Donc, déjà, premier petit indice qu'on est, dans le futur, ça y est. Maintenant, il y a des drones. Et ils sont capables de faire des plans aussi beaux que ça. Et en fait, c'est un drone, quoi. Oui. Et la cabane en bois a changé aussi. C'est plus la même, hein. C'est pas la même, on est d'accord.
Non,
elle est plus belle. Non,
on dirait la maison qui est dans
Airbnb.
C'est une pyramide maintenant.
On dirait la maison qui est dans Midsommar.
Midsommar, ouais, ça m'a fait penser à ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de toute cette petite scène d'intro avec une fille qui scalpe sa cousine
Très en matière, très gore, très sympa.
Ouais.
C'est ça, ça met l'ambiance. Mmh. Ça donne un petit peu aussi aux fans qui pensent que Evil Dead, c'est dans les bois, ce qu'ils veulent. Parce que ces gens existent, hein. Il y en a qui veulent qu'Evil Dead soit vraiment dans les bois, dans une cabane. Mmh. Je trouve le côté un peu méta du drone, tu sais, en mode voilà, un peu petit malin dans l'esprit, mais plutôt marrant. Belle démonstration gore dès le début du film avec une putain d'entrée du titre affiché sur l'écran.
Ça, c'est stylé, c'est énorme. C'est stylé.
Ouais, le reveal du titre est un des meilleurs plans du film et un des meilleurs plans, je trouve, de l'année en termes. De films d'horreur.
Il flotte un peu comme la Vierge Marie au-dessus de l'eau. Ouais, y a un truc
clairement, avec la musique qui monte.
C'est Annie Atkins qui a désigné le title. C'est une collaboratrice de l'Icronine.
Ah, c'est un beau titre.
Hein. Dans c'est Elle s'est régalée.
C'est pas si gore que ça le début quand même.
Il y a quand même un bon petit scalpage de.
Il y a le scalpage où elle, en plus elle l'attrape et elle tire. C'est pas comme si elle sortait un couteau ou quoi que ce soit. C'est elle l'arrache carrément.
Ça fait son effet.
Oui, mais on a vu beaucoup de scalpage de. Moi, il y a celui dans Kill Bill qui me vient à l'esprit, oui, par exemple.
C'est vrai.
Mais oui, c'est pas si gore que ça non plus. C'est lequel le plus gore ? C'est le remake
le
ou
2013.
C'est celui-là ? Ouais, le remake est quand même vachement gore. Ouais, ouais. Mais là, il y a beaucoup de sang aussi dans celui-là. Ouais, hein, pas... ouais.
Ah oui, c'est très crade. C'est juste qu'en fait, il passe après le film le plus gore de la saga.
Ouais.
C'est... Ça joue contre lui. Je dis pas que c'est mauvais, loin de là. Hein.
Ils ont, pour Evil Dead Rise, ils ont produit 6 tonnes et demie de faux sang.
Ouais, voilà quoi. Voilà. Ça va, ça se défend.
Et je crois que pour le précédent, ils avaient battu le record. Je crois que j'avais les chiffres aussi pour le précédent et c'était quelque chose aussi.
Ouais, le 2013, il était...
La fin, c'est que du sang. Quoi.
Ah ouais.
Ouais. Ça devait être un enfer à tourner.
Mais c'est vrai qu'il y a des fans qui veulent absolument que ce soit dans les bois. Ça fait partie du truc en même temps quand on réfléchit quand même. Par exemple, Blair Witch Project, c'est quand ils avaient décidé d'en faire un vrai film dans la suite, que ça n'a pas fonctionné. Et ce qui faisait le charme, c'est que c'était dans les bois, que c'était fan footage. De mon point de vue, je suis vraiment un gars qui les a vus en DivX quand il avait 17 ans. Mais,
je le comprends totalement.
Enfin, tu vois, on attend certaines choses dans certains films, surtout les films d'horreur, où il y a des codes qui reviennent à chaque fois. Et c'est vrai que c'est la première fois en dehors du 3 donc, où on quitte les bois, en fait.
Exactement,
ouais. Tout à fait.
Ouais, c'est pas plus mal, je trouve. J'ai pas de problème avec ça. Il faut bien se renouveler au bout d'un moment. Tu peux pas faire que une cabane dans les bois, quoi.
Oui, puis bon, il faut faire un petit geste dès le début. On remplit tout le contrat, le POV shot. Donc en fait, geste méta, on s'en compte que c'est un drone. Et puis petite scène dans la cabane, voilà, lieu dans la forêt. C'est fait. Maintenant, on peut faire évoluer le concept un peu.
Ouais, c'est ça. Ils mettent tous les ingrédients attendus dans la première scène. C'est plutôt malin. C'est qui la marionnette est cérébrée maintenant ? Fait la rencontre de Beth, qui est guitariste.
Alors, elle est technicienne pour un groupe de rock.
C'est une roadie, quoi.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Et elle se fait traiter de groupie pendant tout le film par sa sœur qui est possédée. C'est marrant parce qu'elle n'a pas l'air si triste que sa sœur soit morte. Mais par contre, quand sa sœur lui dit que c'est une groupie...
Ça l'énerve.
Alors là,
offense capitale.
Là, c'est comme si McFly se faisait traiter de mauviette, quoi. C'est exactement
c'est ça. C'est le déclencheur.
Donc, elle apprend qu'elle est enceinte et elle va rendre visite à sa sœur Hayley qui a 3 enfants. Il y en a un qui fait du scratch tout pourri sur du LCD Sound System. Il fait juste... Voilà, c'était mon imitation du scratch. Comme si on était dans les années 80. Et la plus jeune, elle décapite des poupées. Donc,
ambiance directe.
Ouais, voilà. Et il y a la troisième, je sais... Elle n'a pas forcément de personnalité. Elle, c'est juste
l'ado.
L'intelligence.
Ouais, c'est la
plus
raisonnée des
smart,
trois.
Ça.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Il y a beaucoup plus de persos dans ce film que d'habitude dans les autres Evil Dead, j'ai l'impression.
Là, oui, parce que là, t'as les voisins aussi.
Il y a les voisins qui sont vraiment là pour faire chair à canon, en plus.
C'est ça. Ouais, ce qui est dommage, je trouve. Très dommage. En fait, t'as commencé à en parler tout à l'heure en disant que c'était bien que ça change de décor. Et là, on arrive sur l'instant, du coup, on découvre ce nouveau décor. On est dans un immeuble. On voit beaucoup, du coup... l'appartement principal, qui est le lieu principal d'action du film, tu as le parking et tu as l'ascenseur. Le truc, c'est que je trouve ces décors très mal utilisés dans le film. En fait, malgré le fait qu'on change de décor et que l'ambiance, elle change, tu aurais pu avoir toute l'histoire de Rise dans une cabane dans les bois et ça n'aurait pas influencé. On parlait de Sébastien Vaninchek et Vermin tout à l'heure. Il a bien mieux géré le fait qu'ils sont dans un immeuble et il a mieux joué avec ça. Tu as des étages, tu montes, tu descends, un peu comme des niveaux. Il y a les voisins, il y a plusieurs castes de gens, tu vois, qui se détestent, etc. Plein de choses qui vont nourrir un peu les relations entre les personnages. Et là, c'est un peu mis sous le tapis, en mode, ok, bon, il y a le voisin qui veut tenter de pécho, ils sont, voilà, c'est tout. C'est tout. Ces gens, on les reverra une séquence plus loin crever. Et c'est tout, tu vois, c'est très dommage de ne pas avoir développé un peu ça.
Ils sont là pour la scène, on y reviendra tout à l'heure. Ils sont là pour ça.
Mais à côté, t'as un décor qui est vertical, du coup, c'est un immeuble.
Oui.
et tu joues très peu avec ça au final. C'est super dommage. Enfin, il y a un truc à faire, tu vois, bah, les escaliers, la chute.
Ça a été fait.
Ça a été fait ?
Ouais, ça s'appelle Démon 2.
Démon 2
qui est ouais. excellent. Ouais, Démon ouais. 2, ouais, 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 Démon 1 et 2, allez-y.
C'est une saga, ça ?
Ah ouais, faut que tu vois ça, absolument. De Lamberto Bava, c'est génial.
Ah.
C'est
énorme.
C'est un gros dérapage dans la carrière d'Argento qui produit ça. Le 1, c'est dans un cinéma, le 2, dans un immeuble.
C'est ça.
C'est des démons qui sortent littéralement d'un film, en fait, qui prennent d'assaut des gens dans des espaces confinés aussi. Et c'est complètement fou. Ça suinte, ça crie, il y a du pu, c'est hyper sanglant. Les enfants meurent, il y a aucune pitié vraiment. C'est génial.
Les enfants meurent, c'est génial.
Et dans le 2, tu as différents trucs qui se passent. Tu as une fête de bourgeois qui est en cours. Et en même temps, tu suis au niveau inférieur, tu as la salle de fitness en bas de l'immeuble. Donc tu suis les gens qui font du fitness et tout. Donc tu suis plusieurs destins comme ça, plusieurs parcours dans cet immeuble.
Comme le Titanic.
Exactement. Ouais. Exactement.
Exactement.
Et pour le coup, ils exploitent pas mal la dimension presque, enfin démesurée de l'immeuble qui semble jamais en finir en fait.
Oui, parce que là, comme tu disais, Romain, c'est vrai qu'ils auraient. On dirait que c'est un peu abandonné. Ils le disent en plus dans le film. Hein. C'est un immeuble à moitié abandonné.
Il va être détruit.
Voilà,
un peu crado,
qui va être détruit. D'ailleurs, elle dit il faut absolument que je fasse mes cartons pour partir. Et on voit qu'elle vide d'abord son armoire avec tous ses fringues. Et il n'y a rien d'autre qui est mis dans des cartons. Et tu commences pas par tes fringues quand tu fais tes cartons. Tu veux quand même pouvoir t'habiller.
C'est ça.
Je me suis fait. Il y a quand même toute la chambre du gamin où il y a des vinyles partout. Il y a rien. Il y a pas de carton. Il y a rien qui est rangé. Mais elle est en train de remplir un carton de ses fringues. Et ça, c'est très. Ouais.
Et elle est tatoueuse.
Elle est tatoueuse, c'est vrai. Ouais.
Profession qu'on voit.
Qu'on voit rarement. Ouais. Tatoueuse et groupie. Voilà.
Technicienne.
Donc il y a un tremblement de terre parce qu'on est à Los Angeles, donc il faut qu'il y ait un tremblement de terre.
C'est très cool.
Et il y a un trou dans le sol, donc forcément.
A hole in the ground.
Voilà, il y a un dégât. Ah oui,
thématique.
Ça fait écho.
Thématique.
Donc forcément, il y a un des enfants qui rentre dedans.
Danny.
Et il trouve Jésus.
Ouais.
Oui.
Et le Necronomicon, le livre des morts. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ce mot. Il y a toujours le même look, le livre, avec les dents. Et...
Apparemment,
il manque le visage.
Ouais, il n'y a pas le visage. Là il a des dents, par
contre. C'est vrai qu'il ouais, il a le visage. Il a des dents. Il ressemble un petit peu au livre dans Harry Potter, qui est mort.
Je ne sais plus où j'avais lu ça, mais il disait qu'en fait, les univers d'Evil Dead sont connectés par les livres. Que en fait, dans les films de Sam Raimi, c'est le premier livre que tu vois finalement dans Army of Darkness quand il va dans l'espèce d'hôtel où il y a les trois bouquins, que celui qu'il y a dans le Evil Dead de Fede Alvarez, c'est le deuxième livre.
Ah, il y a des volumes différents.
Voilà, et que celui qu'il y a dans Rise, ce serait le troisième.
D'accord.
Ils disent dans les enregistrements des vinyles justement qui sont repêchés dans le trou là.
Ça, j'aime bien qu'il faut accélérer le vinyle pour bien entendre.
Très bonne idée.
Tout ça, c'est une bonne idée. Ouais.
C'est ça. Ils disent qu'il y a trois bouquins et que du coup, c'est un peu leur moyen de relier tout le multivers Evil Dead.
C'est ça.
Voilà. Alors du coup, ils se bloquent parce que si Vanitschek fait un autre film, ce sera forcément un de ces bouquins là. Tu vois, il peut pas en rester un quatrième, tout ça. Mais il y a une tentative de donner un peu de cohérence à toute cette saga. C'est un challenge qui sont lancés, force à eux. Parce que bon, voilà quoi.
Il y a bien un chercheur anglais qui va trouver ça et qui va la ramener à Paris parce qu'il doit aller au British Museum et doit le faire expertiser au Louvre, je sais pas où.
c'est ça.
On entend Bruce Campbell à un moment. C'est celui qui dit non, arrêtez, il faut pas. Et de ce que j'ai lu, c'est possible que ce soit Ash qui est perdu dans le temps, comme dans le troisième.
Totalement cohérent.
En fait, Ash, c'est vrai qu'on peut s'imaginer qu'il est partout et nulle part à la fois, en fait, c'est ça.
Bah, on le voit même à la fin du Fede Alvarez. Hein.
C'était nul, ça.
Non, mais pour dire qu'il est toujours là, en fait.
Ouais, mais c'était nul.
Qu'il est toujours là. Et quand tu vois un peu ses antécédents, tu peux totalement croire que le mec, il est bloqué au Moyen-Âge, quelque part. Je ne sais pas si vous avez lu les comics Evil Dead, mais c'était un peu leur marque de fabrique de balancer Ash à plein d'endroits différents. Et à chaque fois, il tombe sur le Necronomicon. Il y a même eu, d'ailleurs... un H contre Marvel Zombie pour les fans connaisseurs qui nous écoutent.
C'est Marvel qui faisait les Evil Dead. Je savais même pas qu'il y avait des comics.
Dynamite. Et il y a eu un featuring où du coup H termine dans l'univers des Marvel Zombies à la recherche du Necronomicon et il pense que les Marvel Zombies sont des Deadites, alors que pas du tout en fait. Et fun fact, Hulk se torche le cul normalement avec le Necronomicon dans ce comics. Voilà.
Groovy.
Groovy, exactement. Mais ils ont fait une sorte de héros qui voyage dans plein d'endroits différents, de dimensions et tout, à la recherche d'une Necronomicon pour le tuer, une bonne fois pour toutes, ou le brûler. Et voilà, donc c'est très cohérent en fait. Parce que, enfin, un hommage, je pense, mais moi je crois totalement que c'est H en fait.
Il faut savoir qu'il y a deux membres de l'équipe technique d'Evil Dead Rise qui étaient sur H versus Evil Dead. Mm-hmm. Donc Dave Garbutt à la photo et donc Nick Bassett au décor.
C'est le même mec à la photo sur les deux ?
Ouais.
On dirait pas. Hein.
Bah parce que la photo de.
Il s'adapte bien. Quoi.
Bah la photo de Evil Dead Rise est quand même assez spectaculaire. Moi, je la trouve assez magnifique.
Ouais, ouais,
hein. Et surtout cette scène-là, justement, où il est dans le.
L'éclairage dans le trou, et tout. C'est un beau film.
On voit les croix qui se reflètent sur les murs et tout ça. C'est super bien foutu. Très, très beau.
Tu parlais de la scène post-credits dans le film précédent. J'avais trouvé qu'elle était. Enfin, qu'elle était totalement inutile. Le film, tu penses pas à H une seule fois quand tu le regardes, le film de 2013. Tu pensais souvent à H en le regardant ?
Bah non, parce que le film a une sorte de gravité totale, de sérieux absolu, que quand il arrive à la fin avec le Groovy, bah en fait, t'as l'impression qu'il surgit littéralement d'un autre univers.
De nulle part. Ouais, c'est très étrange.
Il y avait des rumeurs comme quoi, dans une fin qui n'a pas été faite, ça devait être H qui récupérait Mia, l'héroïne du 2013, sur la route, pour faire une sorte de liaison. Et pendant longtemps, il y a eu des espoirs sur un film Evil Dead où H et Mia ferait un team-up pour casser du Deadite. Ouais.
Enfin, j'aimais bien Mia, mais je pense pas que ce soit un personnage assez mémorable.
Ouais, et puis même.
Même niveau que H, quoi.
Je pense qu'il aurait dit pendant tout le film qu'il a envie de se la faire ou un truc comme ça. Donc à un moment donné, ça aurait été gavant.
C'est vrai que H en post-MeToo. H, il est bien dans son époque, on va dire. Voilà.
Exactement.
Oui, puis même le Evil Dead de 2013, je trouve. C'est un film presque à voir en binôme avec Jusqu'en Enfer, finalement. Parce que ce sont des films où on explore vraiment des tourments très spécifiques dans les personnages féminins et il faut quand même un peu de place pour ça. Dans
les addictions, dans voilà. Ouais, exactement.
Donc Ellie se fait attraper dans l'ascenseur et c'est un hommage à la scène du viol du premier où elle est attrapée dans la même position avec des branches, pas des branches, mais des câbles. J'avais l'impression que c'était un peu une référence. C'est dans le premier, hein, c'est ça qu'il y a cette scène. Ouais,
ouais, en tout cas,
dans le premier.
Ouais, il y a une idée de faire une scène où un personnage se fait attraper par là, ce sont des câbles en l'occurrence, mais là, ça va un peu plus loin puisque le corps est littéralement démembré, presque démantelé, la pauvre. Mais et l'actrice, c'est Alyssa Sutherland, c'est quand même bien bien investie dans cette scène-là puisque c'est presque elle qui fait toutes ces cascades avec un système de câblage et tout. On le voit dans le.
Elle ressemble au Joker, c'est très étrange.
Elle a un visage très fin.
Elle a un grand sourire.
Un visage très fin et on va dire.
Des grands yeux.
Voilà, qui se prête très bien à certains maquillages.
Elle a vraiment un air de Joker.
Ouais,
quoi.
Tout à fait. Ouais.
Casting parfait pour ce
personnage. Casting parfait, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais surtout, je trouve que la scène est vraiment très réussie parce qu'on voit un personnage qui souffre pendant la possession.
Et ils ont eu, je trouve, la bonne idée de nous épargner le viol. Parce que du coup, dans le premier, dans le remake, il y a clairement une agression sexuelle. Ouais. Et je pense que c'était pas forcément nécessaire, tu vois, encore de remettre ça sur la table. Donc il y a eu quand même un bon call de se dire, on n'est pas obligé d'aller plus loin, quoi. Genre, il y a un côté tentaculaire qui est dans toute la franchise, puisque même dans le 2, il y avait déjà ça. Il y avait un personnage qui se faisait choper par les arbres à un moment, il me semble. Ça aurait été, je pense, pas nécessaire. J'avais peur en fait qu'ils aillent vraiment là-dedans et qu'elles se fassent violer par un ascenseur. C'est pas une phrase que j'aurais pensé dire un jour d'ailleurs. C'est quand même un peu de bon goût derrière tout ça.
Ouais, le film a pas pour but non plus d'être repoussant ou d'être dérangeant au point de nos retours. Il a pour but de t'effrayer et d'être assez spectaculaire en fait, mais pas non plus
de montagne russe.
Voilà,
tu
c'est surtout ça.
Ouais.
C'est surtout ça.
Et je pense aussi, je disais que Bruce Campbell et Ash étaient bien de leur époque. Et je pense que ce genre de scène, des scènes de viol, juste dans le but de choquer dans le cinéma d'horreur, ça a tellement été fait à une époque qu'on n'a plus besoin, on n'a plus jamais besoin de le faire, en fait, ça.
C'est ça, puis c'est rarement fait.
C'est pas subtil la plupart du temps.
Ouais, puis c'est souvent dans des films de merde, faut le dire. le premier qui me vient à l'esprit, c'est Serbian Film, qui est un digne représentant de ce genre de film de merde, qui va te balancer agression sexuelle et tout ce qui est un peu choquant et un peu tabou pour te choquer. J'ai envie de dire, pas besoin.
Mais même Rémy n'aime même pas cette scène de viol. Rétrospectivement, il a dit que c'était une erreur.
C'est pour ça que dans le 2, il l'a réécrit d'une certaine manière, un petit peu.
Oui, elle se fait tirer jusqu'à l'arbre, mais il n'y a pas du tout d'agression sexuelle, en fait.
Elle se fait une omelette.
Oui. Voilà.
et elle rampe par terre comme dans Ringo, avec les cheveux en avant et tout. Enfin, ça m'a vraiment fait penser à ça.
Complètement. Hein.
Ouais. Il y a plusieurs hommages dans le film, d'ailleurs, à d'autres films d'horreur très célèbres.
Il y en a un bel hommage à Shining.
Oui, voilà, c'est surtout celui-là qui me vient à l'esprit.
Qu'on pourrait prendre pour un hommage à Darkwater.
Mais là, Ringo, c'est un peu la même. C'est vraiment les cheveux en avant, la manière de se déplacer.
Il y a le côté un peu comme dans Ring, la danse buto, mais filmée
Pantin,
à l'envers.
Ouais.
Pantin complètement désarticulé. Ça marche bien, je trouve. Ça marche très, très bien. Surtout quand elle hurle, là, ça marche plutôt pas.
Donc leur mère a des convulsions et leur solution, c'est de la mettre dans un bain. C'est très américain.
À l'ancienne. On n'a pas de médicaments, on n'a pas l'argent. Par contre, tu peux prendre un bain.
On va revenir à Jim Morrison. C'est comme ça qu'il est mort.
Hello, Betsy Boo. C'est Ellie. Je voulais te faire un petit coucou. Bess, il faut que tu m'aides, je t'en supplie. Je brûle. Je suis en train de brûler.
Parlons donc. On va y aller tout de suite. Je vais te demander à toi, Fab. Fab, quel est le thème du film ?
Le thème du film ?
Ouais. Le message, le thème. Le...
Ça lance les vrais débats, ça y est.
Bah, il faut parler quand on est en famille. toute la problématique de est-ce qu'il faut garder son enfant ou pas, c'est ça ?
Moi, en fait, là, je l'ai découvert.
C'est comme une balance en pâture. Allez, vas-y, gars. Vas-y, je te laisse.
Démerde-toi.
Non, mais moi,
c'était voulu.
En fait, alors, je vais être très honnête, j'ai pas perçu que le film était pro-life, ouais. Il faut absolument garder ses enfants. Absolument, puisque quand même l'autre personnage principal est quand même en battle avec ses enfants avant de fusionner.
Oui. Voilà.
Mais non, enfin pour moi, vraiment de manière très. Beaucoup de recul, je me suis dit, bon, comme tout film produit par Sam Raimi, ce type de film d'horreur-là, il y a toujours un personnage qui a une sorte de quête, finalement, assez simple. Mm-hmm. Comme dans Crawl, la fille doit dépasser sa peur. Voilà, il y a toujours une espèce d'épreuve comme ça où le personnage doit se confronté à ses peurs, voilà, un peu dépassé ses certitudes.
Ensuite, avant, c'était l'addiction.
Voilà, exactement. Et bon, pour moi, c'est juste ça, en fait. Mm-hmm. Je pense qu'ils avaient besoin d'une sorte d'idée toute simple. Donc là, elle est enceinte. Est-ce qu'elle doit garder son enfant ou pas ? Bon, elle ne le sait pas. Et puis bon, bah, tout ce qu'elle va vivre dans le film va l'amener vers la conviction qu'elle doit garder son enfant parce que, bah, en plus, elle va, on va dire, en plus... se rapprocher de la toute petite de Casey, donc du coup il y a son instinct maternel entre guillemets qui s'enclenche et puis bon du coup elle veut être maman, mais bon après j'en ai parlé avec le réalisateur, j'en ai discuté, il m'a dit non le but c'était pas du tout de faire un commentaire sur est-ce qu'il faut garder ses enfants ou pas, ou de donner on va dire des directives ou de donner des conseils sur le fait d'aller jusqu'au bout de sa grossesse ou non quoi. Je pense que pour moi c'était juste c'est juste ce qui doit guider le personnage, mais même moi, je n'ai pas perçu.
Je pense que c'est un peu la famille doit rester ensemble.
C'est ça, oui.
Mais si elle reste trop ensemble, ça va se retrouver comme une bête à trois têtes. voilà.
Oui,
je pense
ça.
Que c'est un peu ça.
Sais que le propos qui a vraiment donné cette impression d'un film pro-life à pas mal de personnes, c'est une phrase que dit justement Alyssa Sutherland quand elle est en démon. À un moment, elle chope sa sœur, en fait, et elle lui dit « Je vais manger ton âme ». Elle se baisse vers son ventre, parce qu'elle est enceinte, du coup, sa sœur, et elle dit « Non, je vais manger deux âmes ». Ça, le concept de l'âme de l'enfant qui est pané, c'est un peu le gros débat des pro-life aux États-Unis. Et c'est ça, je pense, qui a marqué.
Oui, c'est vrai que maintenant que tu dis ça comme ça, c'est vrai qu'il y a le côté il existe déjà,
tout ça. Et tout le film, en fait, comme il pousse un peu cette femme a accepté le fait qu'elle va être mère par des moyens un peu violents, hein, parce que ce qu'elle vit dans le film, c'est légèrement traumatisant. Ça renforce un peu ça, et je pense qu'en fait, c'est de la pure maladresse. Je pense que c'est un hommage à Aliens avec Newt et compagnie, avec juste un personnage qui est en panique dans sa vie, qui pense qu'elle va être mère, ça. Je pense que ça vient pas d'une mauvaise intention, mais je peux comprendre que certains se soient dit « Oula, toi, qu'est-ce qui se passe ?» Après, la phrase « pro-life », elle sort de la bouche d'un démon. C'est censé choquer un démon. C'est censé être un peu provoquant. Ouais. Donc, d'un côté, je trouve qu'il y a une cohérence. Mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas interprété comme si c'était quelque chose de vraiment voulu.
Par contre, j'ai trouvé que c'était un film assez religieux, plus que les autres. dans la mesure où il trouve le...
Il y a la prière, il y a Jésus.
Voilà, ouais. Il y a des symboles religieux. Alors aussi, parce que bah, le réalisateur, bah, je pense qu'il doit être catholique, hein, aussi, irlandais. Donc du coup, je trouvais qu'il y avait vraiment le symbolisme religieux, effectivement, avec le crucifix, enfin la croix qu'on trouve dans le
sol. Toutes les croix. Même,
toutes les croix, voilà, avec le Christ sur la croix.
C'est vrai qu'avant, ce n'était pas forcément quelque chose de religieux, le Necronomicon.
Non, il n'y avait jamais d'opposition, comme on peut voir dans un film de la Hammer, avec la croix.
La seule opposition, c'était H et sa tronçonneuse.
C'est ça. Là, c'est vrai qu'il y a ça, effectivement, quand Ellie meurt, ils vont directement, ils appellent les voisins qui leur disent « Oui, il faut prier pour elle, absolument. Rejoins-nous dans la prière. »
D'en faire quelque chose de religieux, ça le transforme un petit peu en exorciste.
Ça flirte.
Oui.
Voilà. L'exorciste, c'est son truc d'être religieux.
Bien sûr.
C'est très bien comme ça. Je ne vois pas pourquoi il faudrait que Evil Dead soit comme l'exorciste, en fait.
Voilà, c'est juste une constatation. Après, ça n'envahit pas le film, mais voilà, il y a ce symbolisme-là, voilà, à deux moments précis du film.
Sachant que ça ne les empêchera pas de rechanger ça au prochain film si besoin.
Complètement.
Tu vois, ils ne s'enferment pas dans un film de possession classique.
Et ça se trouve, c'est Bouddha qui va qui va sauver H dans le 8e Evil Dead. Dans le 8e Evil Dead.
C'est ça.
Maman est avec les asticots.
On a la scène à travers le Judas de la porte.
Quelle séquence.
J'adore.
Donc avec les voisins de palier qui sont vraiment là pour mourir. Il y a même un mec qui s'étouffe avec un œil.
Petit hommage à Evil Dead 2.
Oui.
Là, c'est citation dans le texte. Hein.
Voilà. C'est dans le 2 qu'il y avait ça ? Ouais, je me rappelais plus dans lequel exactement il y avait ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai découvert Evil Dead avec le podcast. Hein. Donc, je ne suis pas un énorme professionnel du sujet. Mais c'est vrai que c'est une super scène. C'est la scène du film, je pense, si tu dois en retenir qu'une de scène dans le film.
La scène du Judas ?
Ouais.
Ah oui, carrément.
Ouais.
Bien sûr.
C'est celle-là et le titre avec la première scène avec le titre. Mais je pense que la scène du Judas, elle est super bien.
Ouais, parce qu'il avait dit qu'il voulait faire une scène en point de vue limité. Et du coup, l'idée du Judas s'est imposée à lui. Mais surtout qu'il y a plein d'actions quand même qui se passent. Parce qu'à un moment donné, on voit elle qui est contre le Judas. Et à un moment donné, elle sort du champ parce qu'elle se prend un coup de fusil. Et là, il y a le voisin qui rentre dans le champ. Donc, il y a plein de choses qui...
Il y a trois quarts du casting qui disparaît.
C'est ça.
C'est old boy un petit peu.
Non, et puis surtout,
oui, exactement.
C'est intéressant parce que c'est toujours à travers le point de vue d'une personne qui n'est pas possédée. C'est soit donc la sœur, donc Bess, ou alors le point de vue de la petite fille. Non, moi, je trouvais que c'était vraiment le gros morceau de bravoure du film.
Ouais, c'est ce que
la montée en puissance.
C'est ce dont je vais me souvenir quand je vais penser à ce film. Je pense que ce sera cette scène-là.
Complètement.
Pareil, hein, pareil. C'est là où j'ai capté que Lycronine, pour un petit débutant, il avait quand même des idées qui tuent. Parce que tout à l'heure, tu l'as dit, Fabien, la photographie, elle est magnifique. Mais avant ça, on est encore au début du film. On n'est pas encore dans le moment où il balance tout ce qu'il a dans le ventre en termes d'effets horrifiques, d'effets de caméra et tout. Et c'est un peu le premier plan, à part une demi-bonnette, juste avant quand t'as fait son omelette, où on te fait quelque chose de différent pour du Evil Dead. Il te dit clairement, non, habituellement dans Evil Dead on fait du très frontal, du très gore, du très violent. Là, il se retient presque, tu vois. C'est minimaliste, c'est juste un plan. On voit à travers ce qu'il y a dans cette... Et il te raconte une mini-histoire, la quête alternative des autres survivants de l'immeuble qui se retrouvent face... à Alissa, et c'est là où tu captes aussi que les Deadites, ils sont résistants, quoi. Coup de fusil, les couilles, tu te dis, putain, ok, l'antagoniste...
Ah non, mais il faut les couper en morceaux et les brûler, hein, c'est
ça.
Ça, je m'en souviens, ça va.
Une scène qui a une grosse importance dans le film, quoi, parce qu'elle plante, en fait, tout ce qui va se passer après. Et visuellement, ça tue, et c'est toujours la preuve qu'en fait, avec juste une petite idée de réalisation, tu peux faire un truc qui tue.
Attends, je prends une photo de Fabien avec le chat, ils sont trop mignons. Voilà.
Surtout que dans l'intervalle, il avait réutilisé le fameux plan de signature avec le démon qui arrive en vision subjective. Il l'avait réutilisé quand le démon arrive vers Ellie dans l'immeuble.
Il le refait à la fin.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, il n'hésite pas à citer les classiques, comme on dit, mais je trouve qu'il rapporte un côté très classieux pour du Evil Dead. Là où Alvarez, le seul réal à avoir fait un film sans Rémy avant, lui était vraiment dans le frontal et essayait plus de, pas de singer, mais d'y aller vénère, tu vois, c'est un bourrin, en fait. Lui, il se retient, mais il cherche une sorte d'esthétique qui est magnifique. Le film, il tue formellement, en fait. Et c'est là où vraiment il commence à te montrer ce qu'il y a dans le ventre, quoi. Il sort un peu du moule de Sam Raimi et Evil Dead et il fait ce qu'il il fait son truc.
D'écrire un film d'horreur scène par scène, c'est pas facile.
Ouais.
Parce que c'est vrai, c'est difficile. Donc je vais enchaîner quelque chose. Par exemple, Bridget se met à vomir et à manger du verre. Un truc que j'ai vachement bien aimé parce que j'y ai toujours pensé toute ma vie, c'est le coup de la râpe à fromage.
Eh oui.
Je pense qu'on y a toujours, on a tous pensé un jour, qu'est-ce que ça ferait si je me râpe le bras. Et
un peu déçu, moi.
Et c'est vrai qu'ils auraient pu aller plus loin avec la râpe à fromage.
Ah ouais.
Ouais, c'est vrai.
C'est là où j'aurais aimé que le film, en fait, n'hésite pas à y aller plus, quoi, dedans, en mode.
C'est pas si fromage, gore que ça, en vrai.
Il trouille sa jambe. Enfin... Non, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang et quelques effets horrifiques vachement bien foutus. Il y a des effets gore, surtout. Mais ça se retient tout le temps, en fait. Mm. Une fois que le premier choc est passé, ils vont pas plus dedans. Là où, en 2013, tu as ce mec qui se fait tabasser par un démon dans la salle de bain et ça finit jamais, en fait. Là, c'est vraiment genre, elle prend la rate à fromage, elle enlève un bout de la peau et hop, on passe
au
de la scène.
Non, ça revient plus, ouais.
Ouais, c'est vrai qu'il y a.
J'en voulais plus, quoi.
Il y a de quoi développer un petit peu, en fait, quoi.
Ouais. Après, phrase de psychopathe, hein, mais j'avais envie, tu fais des spaghettis avec ta jambe, quoi. Démonte-la.
Ou sur le visage.
Ouais, c'est.
Enfin,
c'est
moi,
ça.
Tu me dis écrire une scène avec. Une scène de film d'horreur avec une râpe à fromage, quelqu'un perd son visage, quoi. C'est.
Bah, la logique aurait voulu qu'elle, à son tour, donc Bess, elle rende ça, genre elle massacre un de ses neveux à coups de râpe à fromage dans la tronche, et qu'elle transforme le visage en ficello, quoi, tu vois.
C'est ça. Alors par contre, après, tout à l'honneur du film, de montrer dans ces moments-là, par contre, que les enfants ne sont pas immunisés. Et c'est là où tu commences à comprendre que...
C'est ce que j'ai noté, ouais. Ouais, je
me suis dit...
Trois
quarts du casting qui a disparu, et qu'il reste un quart, et que le film ne va pas hésiter à les sacrifier aussi, et que les adolescents qu'on présente comme des bassons, comme des gens qui sont intuables dans les films d'horreur, les enfants plutôt, là c'est mort, quoi, c'est fini.
Ouais, parce qu'on a la petite qui tue sa sœur avec une épée poupée, hein, on pourrait l'appeler comme ça.
Stéphanie.
C'est ça.
Qui est Stéphanie.
Stéphanie, ouais,
c'est clairement. Et j'ai noté, on a le droit de montrer des enfants si jeunes tuer des gens, c'est des trucs que j'ai noté, je me suis dit, est-ce qu'on a le droit?
Oui.
Et après, je me dis, mais c'est vrai que de nos jours, si tu l'écris bien, en fait, tu peux le faire. Mais c'est compliqué, quoi. Ça peut vite être flippant d'avoir des enfants qui tuent des gens comme ça, qui empalent des gens, tu vois.
C'est ça. Tous aux USA, tu sais.
Ouais, voilà. Et là, au final, non, ça va, ça passe.
Ça rejoint les rangs des films d'horreur qui ont eu le courage de tuer des enfants, et moi, je le respecte. J'ai rien contre les enfants, hein, mais je remarque que les bons films d'horreur ont toujours un enfant qui meurt. Tu vois, je pense au Blob de 88 qui n'a pas hésité à sacrifier un gamin aussi, et le film est incroyable. Donc, voilà.
C'est vrai.
Le message est là. Sacrifier des gamins, ça fait des bons films.
L'idée de Stéphanie vient de la nièce de Lee Cronin, en fait. Il l'a vu jouer dans un jardin et elle avait apparemment une. Voilà, il y a un truc comme ça. Et apparemment, parce que sa nièce est fan d'Evil Dead, elle a dit ça faut une bonne idée.
Ouvre-nous la porte, ma jolie Cassie. On pourra de nouveau former notre belle famille.
T'as l'air trop bizarre, maman.
C'est vrai, j'ai besoin d'un très très gros câlin pour me sentir mieux, chérie. Ouvre-moi la porte. Sois une gentille fille.
Donc on a la césarienne presque forcée à un moment avec les griffes. Et j'adore quand même les Deadites. Dès qu'ils parlent ou qu'ils ont des choses à dire, je ne sais pas si c'est la voix qu'ils utilisent, mais il y a un truc très drôle avec les Deadites, je trouve. Dead by Dawn, Dead by Dawn.
Encore une fois, citation directe.
No way out, no way out. On aurait dit un peu des supporters de foot. Qu'est-ce qu'il fait, Cooper, là?
Il
mord pas, ça va?
Non,
il fait...
Okay. Non, il se fait les dents, mais il mord pas.
Il se fait les dents.
Oui, ça va.
Et donc, hommage à Shining, on peut en parler quand même, parce que ça commence à l'intérieur et je vois le sang qui remplit l'ascenseur et je me suis dit ah c'est intéressant, ils font une reverse Shining, en fait c'est que cette fois tu vois l'intérieur se faire remplir, et non, au final il fait carrément le même plan que Shining avec les portes qui s'ouvrent et le sang.
Il s'est fait plaisir.
Ouais, en fait c'est un hommage trop évident pour moi. Shining, c'est le film d'horreur le plus connu de l'histoire.
Ouais, ça te sort du film directement, en fait.
Un petit peu, ouais.
Alors c'est marrant parce que quand je lui en ai parlé, j'ai même pas Shining qui m'est venu à l'esprit, j'ai Darkwater. Vraiment, on a cette vraiment dynamique.
Non, mais là, t'as vraiment le même plan.
Oui. Sauf que là, c'est pas le ralenti, tu vois. Mais le fait de voir le sang qui sort très vite, ça me rappelait Darkwater avec l'eau qui sort extrêmement vite de ce vieil ascenseur, en fait. Et dans lequel il y a une petite fille aussi. Enfin, sauf que dans Darkwater, c'est la petite fille qui se reçoit.
Là, je pense que c'est plus un hommage à Shining, carrément. Quoi.
Non, mais il l'a dit, oui.
Je préférerais qu'il y ait des références à des films où, justement, vous deux, vous allez me dire « Ah, ça, c'est une référence à ça, c'est un film de telle année », plutôt que de me dire « C'est une référence à Shining » et que même moi, je suis au courant que c'est une référence à Shining.
Je déteste avoir des saloperies dans mon ventre. Pas toi, Tata Bess ?
Et on a le droit à un zombie à trois têtes.
Oui.
Et six bras. C'est Resident Evil.
Le maraudeur.
C'est Resident Evil, on est d'accord.
C'est ça. Et d'ailleurs, c'est la force du film. Parce que s'il y a quelque chose qui manquait dans le 2013, c'est des créatures totalement difformes, totalement folles qui étaient dans les originaux.
C'est clair.
Et ils ont mis dans la série, il y en a plein. Tout d'un coup, le film sort du côté Dead Eye classique. Et oui, c'est vrai que t'as trois Dead Eye qui fusionnent et t'as cette sorte de crabe de main, de visage et tout qui se balade. Splendide créature.
Ouais, c'est une super bonne idée. En plus, il y a le côté la famille.
La famille.
Ouais, voilà. Ouais. On dit qu'ils sont attachés à la hanche, comme on dit. C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que certaines familles font peur comme ça. Quand tu débarques, que tu passes un dîner avec certaines familles, t'as vraiment l'impression que c'est cette bête-là que t'es en train de rencontrer. Quoi.
Bah, c'est ce que m'a littéralement dit. C'est ce qui m'a littéralement dit.
Les grands esprits se rencontrent.
Il m'a dit c'est la peur de voir ta famille t'absorber littéralement, en fait.
Ouais.
Voilà, avec le
un de
dîner,
manière un peu trash.
C'est ça. Là, pareil, en fait, parce que Lycronin, vu qu'il a pas pu mettre les bonus qu'il voulait dans le Blu-ray du film, il a fait un thread sur, il faut dire X maintenant, où il raconte tout le making-of du film, et ils ont fait aussi des tests de cascade avec des cascadeurs pour le maraudeur, en fait, pour voir comment ils pouvaient s'agglomérer, voir comment ils pouvaient se déplacer ensemble.
Je trouve qu'on le voit peut-être pas assez.
Bah, c'est tout dans la suggestion, parce que le concept,
c'est obligé,
le concept est un peu compliqué quand même.
Je pense que tu le vois en large, tu rigoles.
En fait, ça me fait penser au Roi des Rats. Vous connaissez le concept où tonnes de rats qui s'attachent à la queue et au final ça fait un seul gros rat parce qu'il y a des centaines de rats et ça fait un seul rat.
C'est ça.
Et donc à ce côté-là, et c'est pour ça que j'aurais bien aimé avoir un plan large où je vois vraiment à quoi la bête ressemble et au final on voit pas trop ça, mais c'est pas plus mal. Hein.
Disons qu'il y a relativement peu de CGI, c'est utilisé surtout à la fin quand elle passe dans le c'est quoi le véhicule là, l'espèce de
le broyeur
dans
hein.
Le broyeur, c'est juste
le grinder
parce qu'après on voit que c'est filmé de manière assez maligne, on voit que c'est surtout des gros plans, des fois c'est des caméras en contre-plongée juste pour voir la main ou une seule tête, enfin c'est quand même assez bien géré, mais c'est vrai qu'on a envie d'en voir plus.
Je tiens à dire que Cooper est en train d'arracher les poils de Fab avec ses dents, quoi.
Ouais. c'est lui la râpe à fromage.
Il est carrément je le voyais en train d'attraper les poils de Fab et de tirer comme ça.
Il a transformé ma main en gruyère, j'ai ma main qui est plein de petits trous provoqués par Cooper.
Cooper, faut que t'arrêtes, t'es pas comme ça normalement. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive là ?
Il m'aime bien. Il se nourrit de mon âme.
La tronçonneuse est là.
Oui.
Elle est utilisée comme il se doit.
Le fusil aussi.
Le fusil est là aussi. Le boomstick.
Le boomstick.
Le fameux boomstick.
Le paquet magique. Coule dans tous les sens.
Ouais.
C'est l'instant où le film commence à se libéré de toute contrainte, de toute envie de retenue. Non, là, c'est... Bah, les couilles, ça pue le sens, ça balance du... Bah, je pense que les 6000 litres de faux sang sont partis là.
Ouais,
ça, ouais, carrément.
C'est dégueulasse. Tous les personnages sont rouges. Alors, vraiment, les murs sont rouges, les gens sont rouges, tout est rouge.
Ça me rappelle le remake, en fait.
Oh bah oui.
La dernière scène du remake, c'est tout à fait ça aussi.
L'interminable jet d'air de sang.
Donc j'ai l'impression que ça devient un peu la marque de fabrique d'Evil Dead. Je suis sûr que dans le prochain, il y aura aussi dans la dernière scène du sang partout. Ouais.
Il faut faire kiffer un peu les gens aussi, ils sont là pour ça. Hein.
C'est ça. Et ça me dérangerait pas que ça devienne ça, tu vois. T'as 1h20 d'un film original, puis à la fin, ça tout va vers ce massacre final. Si ça doit évoluer comme ça, pourquoi pas, quoi.
Comment ils expliquent ça à la police ? Parce que en gros, quand t'es dans les bois, tu peux te barrer, la police arrive, ils trouvent des trucs, ils se disent « Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Voilà.
Bah, c'est le tremblement de terre.
Alors, oui, alors que là, quand même, c'est quand même un immeuble à Los Angeles. Je pense qu'il y a des questions qui vont être posées. Il y a bien des gens qui vont trouver le trou, par exemple, avec les croix et le Jésus. Et tout.
Et on se dit « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»
Sauf s'il démolit l'immeuble. Mais en tout cas, c'est vrai que j'imaginais juste ils sortent de l'immeuble en voiture et ils s'en vont et il y a les flics qui les arrêtent direct au coin de la rue.
Attends, ils sont,
pourquoi
ils
vous
sont
êtes remplis de sang,
ils ont un shotgun,
pourquoi vous êtes remplis de sang,
une tronçonneuse sur toi.
Et j'ai cru pendant un moment, c'est la gamine qui allait prendre la tronçonneuse.
Ah oui.
Quand la tronçonneuse arrive pas très loin d'elle, et je me suis dit, on va avoir une des scènes les plus cool de l'histoire du cinéma avec une gamine avec une tronçonneuse. Et au final, on n'a pas eu ça, et je trouve que c'est un peu dommage. Peut-être que là, ça aurait été too much pour les Américains.
Ça aurait été très bien.
Ça aurait été génial, franchement.
Non, mais quand Bess, elle shoot la tête de sa sœur, moi, je trouve ça pas mal.
Ouais.
Elle dit, ouais, tu ressembles à maman.
Après, je réfléchis, tu disais que ça aurait été peut-être un peu too much pour les Américains de montrer une gamine avec une tronçonneuse. J'ai un contre-exemple en tête qui me vient, donc je place, je pense à Kick-Ass, dans Kick-Ass de Matthew Vaughn.
Mais oui, dans Kick-Ass, elle kick des ass, en effet, ouais, c'est vrai.
Chloé Grace Moretz, je crois qu'elle avait 11 ans, passe son temps à massacrer tout le monde à coups de shotgun, de gun, couteau, ce que tu veux. Donc, alors, ça avait fait un buzz à l'époque, pas dans le bon sens, parce que forcément, c'est pas de bon goût pour certains, mais ils peuvent, ouais, et en plus... Vu le budget derrière, tu vois, ils n'ont pas beaucoup de risques parce que ça allait marcher. Il n'y a pas de gros débat, je pense, à la prod pour éviter ce genre de choses.
Tu penses qu'ils savaient que ça allait marcher, Evil Dead ? Ils se disaient, c'est
un des noms les plus reconnaissables du cinéma horrifique.
Ouais.
Ça a coûté 17 millions. 17 millions, c'est des scores au box-office que font même les Blumhouseries habituelles un peu pétées, en toute honnêteté.
Quand tu vois l'argent que Scream rapporte, par exemple, encore de nos jours, tu te dis, ouais, il y a
tu vois, ouais, c'est valeur sûre. Et puis, il y avait une bonne hype aussi pour revoir du Evil Dead au cinéma, en fait. Simplement, les trailers avaient rassuré les fans, les gens étaient plutôt contents d'y retourner. Il est sorti en avril 2023, il me semble.
Tout à fait.
Il n'y avait pas beaucoup de concurrence en face, puisque les autres films d'horreur de l'année sont sortis plutôt vers mai, juin, juillet. Et ils n'étaient pas fameux, hein, pas, je pense à mon Déméter, voilà, ou au Croque-Mitaine, voilà. Donc non, c'était... Enfin, on ne peut pas dire, ouais, c'est sûr que ça allait marcher. J'avais pensé que ça atteigne un score au box-office aussi haut, parce que 150 millions, c'est quand même 15 fois le budget. Mais c'était sûr que ça allait quand même au moins ramener les fans. C'est du Evil Dead, c'est une grosse communauté. Je pense à un documentaire d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Hail to the Deadite, il me semble. Qui a un docu sur les fans d'Evil Dead et tu vois que c'est des gros psychopathes en fait les mecs.
Ouais, il est marrant.
Donc non. Il est marrant, c'est un peu. Et c'est moi qui ai la plus grosse collection de VHS Evil Dead si vous voulez voir.
C'est toujours drôle ce genre de truc parce que c'est un flashback un petit peu, tu vois. C'est une époque finie maintenant.
C'est ça.
Maintenant, il n'y a plus personne qui a une pièce remplie de VHS. Hein, ça n'existe plus de nos jours. Quoi.
Donc... Oh, tu viendras chez moi, on en reparlera.
j'ai dit personne d'important.
Par contre, le film a eu un peu chaud parce qu'à un moment donné, il était question de le sortir directement sur HBO Max. Hein. À un moment donné, Warner s'est dit on va le mettre directement sur la plateforme. Et heureusement, il y a eu un changement de stratégie qui ont fait que finalement, ils ont décidé de le sortir au cinéma. Et ils ont
les projections bien test, fait. Je crois. Je crois que c'est les projections test qui ont été super bonnes. Du coup, ils se sont dit non, vas-y, on le sort au cinéma.
C'est rare que ce soit dans ce sens-là.
Le bon call. Pour revenir sur le sujet du box-office aussi, les licences totem, tu vois, t'as cité Scream, mais je pense aussi à Halloween, qui est une autre saga culte de cette époque-là, à l'époque d'Evil Dead aussi. Ça a rapporté les mêmes revenus au box-office, tu vois. Ça reste des films qui ont des fanbases tellement grandes, quoi qu'il arrive, t'as un peu une sécurité quand même. À moins vraiment de merder totalement. Tu vois, de faire ce qu'on appelle une Halloween Ends dans le milieu, où semaine 2, les gens sont moins fans, et, enfin, sont moins chauds suite aux critiques et disparaissent de la salle, malheureusement, parce que Halloween Ends, c'est pas mal. Non, c'est sûr que ça allait plutôt quand même bien fonctionner.
Ouais, surtout qu'il a fait un box-office assez régulier, c'est-à-dire qu'il engrangeait un peu tout le temps la même somme régulièrement, semaine après semaine. Voilà, c'est très confortable. Je crois qu'aux États-Unis, il a fait 65 millions de recettes.
C'est ça.
À peu près, ouais.
Je rajouterais un truc un peu fou. La génération Z a hyper accroché aux protagonistes principaux et à Alyssa, la Deadite. Et il y a eu des trends de TikTok autour d'Evil Dead Rise. C'est totalement improbable à dire, mais il y a toute une génération de jeunes qui consomment de l'horreur grâce à TikTok. Qui vont voir les films qui marchent en fonction à cause de ce qui fonctionne sur TikTok aussi. Quoi. Et il y a eu beaucoup d'édits, ce qu'on appelle des édits, ce qui est le nouveau moyen de dire... tu sais comment on appelle ça les trucs qu'on faisait à l'époque avec des jeux vidéo, les PMV. Non,
PMV, ouais, c'est ça. PMV.
Si c'est ça, tu vois. Ouais. Voilà, je me souviens d'avoir lu pas mal d'articles là-dessus en mode Evil Dead Rise, ça marche super bien sur les jeunes.
Il faut que je me mette à séparer les épisodes en... pour les mettre sur TikTok. Un épisode de 3 heures en plusieurs TikTok.
Avec en haut l'épisode et en bas un extrait d'un jeu satisfaisant.
Moi qui joue à Roblox.
Ah ouais, j'étais choqué de voir les gens vouer un culte à Evil Dead Rise et surtout aux personnages, ils sont attachés aux persos, tu vois.
Ah, c'est fou.
Consommer le film différemment.
C'est des meilleurs persos que dans la plupart des films d'horreur, je trouve, quand même. C'est des bons persos, quoi.
Ah non, ouais. je suis d'accord, il y a une très très bonne dynamique. Ils jouent tous très très bien, les enfants aussi, hein, vraiment. Et puis c'est l'acteur qui joue Danny, Morgan Davis, en fait, c'est un acteur trans, en fait.
Ah, ok.
Voilà, donc.
Oui.
Donc, du coup, il y a quand même une forte dynamique.
C'est le wokisme, quoi. C'est ça que tu es en train de me dire.
Non, pas du tout.
Mais le mot en W. cette représentation, je pense qu'elle a été essentielle dans le succès du film auprès de la génération Z.
Complètement, pour le coup. Complètement.
Ouais. Mort avant l'aube ! Mort avant l'aube !
Mort avant l'aube ! Mort avant l'aube ! Et ça se termine en bouclant la boucle, puisqu'on nous explique qu'en fait... tout ce qui s'est passé dans ce film, c'était avant la scène d'intro. Mmh. Donc voilà, au moins on nous explique un petit peu tout ça. Et ça se termine avec le Raimi shot, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé d'Evil Dead Rise ? On va commencer avec toi, Romain.
Je l'aime bien. Formellement, c'est un film qui a des tonnes de qualités. Le film, visuellement, il tue. C'est un des Evil Dead les plus beaux, je trouve. Je reste fidèle au 2013 et à son côté bourrin. Totalement fou au fait que tu as des visions là-dedans que tu ne verrais jamais ailleurs avec cette pluie de sang à la fin, ce geyser, ce voilà. Je m'attendais un peu à ça pour celui-là, j'étais un peu déçu là-dessus, mais je pense que c'est un film qui propose plein de nouvelles idées, que c'est un bon départ pour la franchise, un bon nouveau départ, de donner un peu à Evil Dead un côté bac à sable pour des jeunes cinéastes qui puissent s'exercer un petit peu et un peu bah voilà, donner de la voix, quoi. Et je pense que Lee Cronin s'en est vachement bien sorti malgré... le fait qu'il avait une des plus grandes franchises horrifiques sous sa guidance, quoi. C'est pas parfait. Je trouve le film trop dans la retenue, malheureusement. Je pense qu'Evil Dead, ça doit être un petit peu plus gore, malgré le fait que c'est hyper sanglant. J'en attendais un peu plus là-dessus, mais je trouve que c'est à côté le Evil Dead qui est le mieux joué et le mieux écrit en termes de personnages, ce qui est une nouveauté qui est plutôt bienvenue dans la franchise. Parce que ça n'a jamais brillé par ses acteurs, à part Bruce Campbell, évidemment, ou son écriture de personnages en général. Donc voilà, c'est un bon film, c'est pas mon préféré. J'étais très heureux de le revoir, donc merci pour l'invitation, puisque moi j'étais resté sur mon avis à chaud au cinéma à l'époque. Donc voilà, je le conseille quand même, c'est un film qui a plein d'idées visuelles de fou, et sonore aussi, on l'a pas cité, mais le moment du vinyle où on entend les incantations en 5 points, c'est une folie. Donc voilà. Moi, je le conseille, bon film, bonne surprise quand même.
Ah bah moi, ça a été dans mon top 10 de 2023, ni plus ni moins. J'adore ce film. Ouais. Vraiment, j'adore ce film. Effectivement, je vois les petits défauts, les petites scories. Moi, j'ai une petite réserve sur la musique.
C'est pas parce que t'aimes bien le réalisateur ?
Non, pas du tout. Non, parce que j'aimais le film avant de le, de le rencontrer. Mais en fait, justement, je me suis dit, ah, enfin, ça y est, on commence à se libérer un peu du rapport sacro-saint qu'on a avec les films de Sam Raimi pour revenir au concept et l'exploiter autrement et enfin commencer à réfléchir à la manière dont on pourrait réorienter cette franchise. Donc en fait moi je le trouve beaucoup plus je dirais franchise friendly que l'était le film de Alvarez qui pour moi était vraiment on va dire fermé sur lui-même. Voilà, pour moi, ça n'appelait pas de suite, mais qui était un film génial. Hein. Oui. Et celui-là, je pense que c'est typiquement le film qui peut réamorcer, d'ailleurs, on va en avoir la preuve très bientôt, qui peut très bien réenclencher une franchise parce qu'il y a quand même beaucoup d'idées, notamment ce maraudeur. Enfin, moi, je m'imaginais à un moment donné un empilement de Deadites comme une forme de tour. Enfin, il enclenche des choses qu'il ne peut pas forcément rendre trop démesurées du fait que le budget reste assez serré. Mais en l'ayant revu juste avant de faire le podcast, je me disais quand même, il y a une gestion du concept qui est quand même vraiment extrêmement bien menée. Les personnages sont très attachants. La photo très très belle. Le film ne veut pas être trop long parce qu'à un moment donné, les gens ils veulent quand même avoir un film rythmé, un peu spectaculaire. C'est pour moi ce que doit être la vraie bonne série B d'horreur du samedi soir. Ce que doit être Evil Dead à la base. Voilà. Voilà, pour moi, ça doit être aussi ça. Malheureusement, tu ne pourras aller jamais plus loin dans l'excès que Army of Darkness, qui était le truc ultime où on allait vraiment loin dans le concept.
La cocaïne était
voilà,
là, quoi.
En changeant de genre. Et là, revenir sur ce que c'était à la base, c'est-à-dire le petit film d'horreur, bien sec, série B, nerveuse, moi, j'étais content, mais vraiment. Et c'est ça, moi, qui me le rend peut-être plus sympathique à mes yeux que le film d'Alvarez. Qui est... Le film d'Alvarez, c'est un film où il faut se mettre dans un mood pour le voir. Parce qu'il est vraiment, il est pesant, il est gore, il est presque un peu fatigant tellement le film a un mauvais mood en fait. Tu vois, c'est alors que celui-là, il reste très sérieux, mais en même temps, il y a quelque chose de beaucoup plus spectaculaire et un petit peu fun, sans que ça soit rigolo entre guillemets. Ouais. Voilà. Et ça, j'ai beaucoup adoré. Et c'est effectivement quand j'ai vu Vermine. Qui se voulait pareil un film conceptuel dans un immeuble, je me suis dit c'est très intéressant que ça sorte quelques mois avant Evil Dead Rise parce que les films se répondent d'une manière assez hallucinante.
Et lui il va se retrouver
faire entre Evil Dead, je me suis dit mais fantastique, ouais. Idée géniale. Mais voilà, il faut vraiment revoir aussi. Il faut voir aussi Démon et Démon 2 parce que sur le concept similaire, Démon 2 c'était déjà un Evil Dead Rise avant l'heure, mais qui utilisait justement, comme l'a dit Romain, à fond la verticalité de l'immeuble, le fait qu'il y ait une vie foisonnante dans cet immeuble et puis la musique défonce aussi. Donc voilà. Mais vraiment, moi je trouve que ça, c'est là où on se dit, tiens, il y a un truc à faire avec la franchise Evil Dead et ce film-là, Evil Dead Rise, est vraiment inspirant à ce niveau-là, vraiment très inspirant quoi. Et moi, bravo à l'Icronine quoi, franchement.
Bien moi, en tant que personne qui n'a vu les Evil Dead qu'une ou deux fois pour le podcast, je remarque que j'ai rarement passé un mauvais moment devant Evil Dead.
Y a pas de mauvais film.
C'est vrai. C'est pas une saga où je me dis celui-là, j'aimerais pas le revoir. Tu vois, y a pas un moment
ils
comme ça.
Tous un truc.
Ouais, c'est au final avec le recul là maintenant, je peux le dire, c'est une excellente saga Evil Dead. Franchement.
Complètement.
Je m'y attendais pas. Et là, par exemple, quelque chose que j'aime bien avec les Evil Dead, et c'est là où je me dis, je vais peut-être finir fan de films d'horreur avec les années, parce que je pense que c'est comme ça que je, c'est vers là que
One
je me dirige.
One of us.
Exactement. parce que je trouve que, vous savez, il y a le podcast concurrent 2h30 de perdu. Eh bien, moi, je trouve que les Evil Dead, c'est 1h30 de gagné. Je passe toujours. En plus, mon Dieu, ce que j'aime quand les films ne sont pas longs. Parce que de nos jours, on se tape tellement des films longs qui n'ont rien à dire.
Donc merci. Merci.
On se tape des films de 2h30 qui n'ont rien à dire.
C'est les meilleurs.
Qui n'ont rien à raconter. Ouais. Et de temps en temps, tu tapes un film d'1h37 et tu fais, je me rappelle pourquoi j'aime bien le cinéma quand même.
Bah, c'est ça.
On est totalement d'accord.
Non. Mais en tout cas, pour revenir à Evil Dead, j'ai passé un bon moment. Comme tu disais, c'est plutôt beau à regarder, c'est plutôt gore, c'est plutôt fun. C'est vrai qu'il n'y a pas le sens de l'humour qu'il y a forcément avec les autres. Et j'ai envie de dire, c'est sûrement pour ça qu'ils ont fait la série Ash versus Evil Dead, pour pouvoir mettre tout l'humour qu'ils avaient envie de mettre, ils mettent ça dans la série. Et les films, on va faire autre chose, quoi. Tu vois, essayer de ne pas essayer de ne pas faire du clin d'œil à longueur de temps comme la série peut l'être, parce que j'ai vu deux, trois épisodes et c'était un peu ça. Hein.
Je pense qu'ils étaient dans une impasse avec la série. En fait, tu as dit le mot réorienter tout à l'heure quand tu parlais de la franchise de Evil Dead Rise, Fabien. Je pense que c'est même sauvé. Je pense que Evil Dead Rise a sauvé les meubles.
Complètement.
Parce que la série, elle, marchait beaucoup au fanservice. Ouais. Et du coup, au clin d'œil et à l'humour et tout, mais en fait, tu peux pas aller très très loin avec ça. Et c'est un peu le message de la série, c'est que ça peut marcher une saison et demie, deux saisons grand max. Déjà, la saison 3, elle piétinait, quoi. Ouais. Elle commençait un petit peu à trébucher. Et d'ailleurs, les audiences l'ont montré. Si la série était annulée, c'est pas parce qu'ils ont voulu arrêter eux, c'est que les gens n'étaient plus là pour la regarder. Elle était annulée, cette série. Et je pense que Evil Dead Rise, c'est un petit peu le film qui a été fait en réponse à ça, en mode ok, bon, ils ont les vrais fans hardcore à l'ancienne qui veulent Bruce Campbell, ils l'ont eu quand même là 3 ans de plus, alors que lui avait dit 20 fois je reviendrai jamais, mais bon, il y a les impôts à payer, donc voilà,
Il a pas fait grand chose d'autre, Bruce Campbell, dans sa carrière.
Il a tourné beaucoup de films de série B et de films d'horreur, des petits rôles, parfois rôle principal. C'est quand même une gueule inévitable du cinéma de genre, qui a beaucoup tourné. Bon, il a 2-3 rôles plus iconiques que le reste. Evil Dead, mais aussi Spider-Man, il apparaît dedans, tu vois. Depuis, en fait, quelques années maintenant, ça devient un peu comme Robert Englund ou toutes ces gueules du cinéma d'horreur. C'est-à-dire qu'il vit principalement des 2-3 rôles qu'il fait en caméo pour le fun à droite à gauche. Et de convention, où il fait payer 150€ l'autographe, au passage. Voilà quoi, je pense que c'est fini, il a la retraite. Mais il a quand même beaucoup tourné, vraiment beaucoup. Là j'ai Congo qui me vient en tête, un film avec des singes tueurs, au passage.
Ah, je me rappelle
de ce film. Il apparaît au début. Il a aussi été dans un excellent film qui s'appelle Maniac Cop de William Lustig. Ouais. C'est reste une des gueules que tu croiseras si tu continues ton aventure dans le cinéma d'horreur, Sofiane.
Jamais.
Il avait fait aussi une série qui s'appelait Les Aventures de Briscoe County Junior, western.
Il a fait un chef-d'œuvre, faut qu'on le cite absolument, c'est Bubba Hotep.
Oui,
Bubba Hotep.
Oui, oui. Ça, je l'ai vu.
Voilà, où Bruce Campbell joue Elvis. Je n'en dirai pas plus. C'est parfait.
Et il y a aussi Kennedy avec lui.
Oui, c'est vrai. Qui jouait par aussi Davis Junior. Mais surtout, faut pas oublier que Bruce Campbell est coproducteur de la franchise Evil Dead. Hein. Donc, il y a des sous-sous qui rentrent dans sa
poche aussi. Tant mieux, Bruce.
Mais il était déjà producteur dès le premier film, en fait. Hein. Donc, du coup, il fait partie des ayants droit de la saga. Ouais.
Il n'y a pas d'issue. Avant de se quitter, je propose qu'on fasse un petit classement rapide de vos films Evil Dead préférés. Fab, vas-y, allez.
C'est dur, ça. Allez, c'est rude. Bon,
je te fais choisir entre tous tes enfants.
En partant du haut, donc 3.
Donc c'est le 3 ton préféré. Il va y avoir 2 personnes sur 3.
3, 1, 2, Rise. Et le Alvarez.
Mais ça ne veut pas dire que tu détestes le Alvarez.
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non,
c'est un petit classement.
C'est mon classement personnel. Mais tout, et comme je le répète encore une fois, tous les films sont bons.
Romain.
Alors, pareil, j'ai introduit en disant que tous les Evil Dead sont bons. Comme ça, je me dédouane du drama Twitter. Top 5, en partant du bas, le 1. Rise. Le 2.
Hot take direct.
Top 5, le 1. Top 4, Rise. Top 3, le 2. Top 2, le 2013, le remake. Et le top 1, c'est le 3.
Army of Darkness.
Pour moi. Army of Darkness, injouable.
Moi, j'ai du mal. Je me rappelle plus ce que j'avais dit la dernière fois. Bon, de toute façon, mon classement a dû évoluer. Je sais que c'est le 2, mon préféré. J'avais vraiment passé un super bon moment devant le 2.
Tu m'as dit, c'est l'équilibre parfait.
Le 2, c'est l'équilibre parfait. Le 1 a son charme parce que il est fait avec des briques et des brocs. Il est fait avec rien, quoi. Avec combien? Avec 5 dollars, ils ont été faire ça.
Des briques et des brousses.
Des briques et des brousses. Et le 3, j'aime bien, mais je ne suis pas non plus. Je sais qu'il est très métal. Il est très. Il plaît à une partie de la population parce que c'est vrai que les mecs qui étaient un peu plus vieux que moi. Qui avait entre 5 et 10 ans plus vieux que moi, ils adoraient tous le 3. C'était vraiment, j'en entendais tout le temps parler, le poster, quoi. Le poster que tu as vu, que tu as vu partout. Mais c'est vrai qu'entre les deux, entre les deux plus récents, j'aurais du mal à dire, parce qu'il faudrait que je revoie l'autre pour me remettre un petit peu ça dans la mémoire. Mais c'est vrai que je préfère peut-être le 5e Rise parce que. Il est un peu plus original, le côté on est dans la ville, même si c'est pas vraiment on est dans la ville, ça reste un huis clos. Mais comme je disais, je les aime tous bien.
C'est une franchise.
C'est pas tous des chefs-d'œuvre non plus.
C'est une franchise qui a beaucoup capitalisé sur sa rareté, justement, pour à chaque fois créer l'événement et pour rester toujours qualitative, mais aussi, comme l'a dit Romain tout à l'heure, H a particulièrement aussi été bien exploité dans les comics. Vraiment, il y a des super histoires. Un truc très, très
et cool. Les jeux vidéo.
Ah ouais, les jeux vidéo aussi, bien sûr.
Il y a des jeux vidéo.
Les jeux vidéo sur PS2 et tout. Ah ouais. Et dans la série des comics fun, j'en conseillerais un, outre Marvel Zombie, là, c'est H versus Freddy versus Jason.
Ouais.
Qui est la suite de Freddy versus Jason. J'espère que tu feras cette saga un jour.
C'est dans celui-là où il... il porte la tête de Jason ou de Freddy et elle sourit à la fin du film.
Oui, c'est ça. Oui.
Ah, ça, je m'en souviens, ça m'a hanté, ça.
Il est génial.
Pas dans le bon sens du terme. Hein,
bad catch. Ouais. Ah non, mais ça vieillit comme du bon vin, t'inquiète pas. On en parlera un jour.
Mais celui-là, je l'ai vu alors que j'ai pas vu. J'ai dû voir un film de chaque saga, mais j'avais été quand même curieux et je m'étais dit, allez, je vais aller le voir.
Ouais,
c'est toujours mieux que Batman v Superman, j'ai envie.
D'ailleurs, ça correspondait à l'époque où les trois licences étaient chez New Line, je crois.
C'est ça.
Okay. C'est pour ça que t'as une référence en plus à Freddy dans Evil Dead Rise. À un moment donné, il dit ouais, viens, on va regarder les 4 Freddy.
La New Line a beaucoup bossé sur Freddy. Enfin, c'est un peu un jeu de. C'est ça, donc c'est leur film quoi. Mais voilà, pendant un temps, ils avaient voulu faire une suite au film. Ça s'est fait en comics du coup. Mais ça aurait pu être bien pire parce que pendant un temps, ils voulaient aussi rajouter Pinhead de Hellraiser. Tu vois, enfin, ça aurait été n'importe quoi. Mais du coup, je conseille ce comics qui est totalement débile. Et qui est une bonne suite à la fois aux trois franchises. Donc, si vous le trouvez quelque part, faites-vous plaisir.
Je vais avaler ton âme tout entière.
Eh bien, on a fait le tour sur cette petite saga Evil Dead. Je pense que je peux vous dire qu'on se retrouvera peut-être la même équipe dans un an ou deux quand sortira le prochain. Ça pourrait être sympa. Oui. Ça pourrait être sympa. Et merci à vous deux d'être venus, de m'avoir rejoint.
Merci à toi de l'invitation, surtout.
Romain, on peut te retrouver où ? Jumpscare ?
Alors, c'est l'instant promo. Alors attention, Jumpscare, en effet, podcast hebdomadaire sur le cinéma d'horreur tous les vendredis. Un podcast qui revient à la fois sur l'actualité ou des films plus anciens, un peu de rétrospective, souvent avec des guests. Un certain Fabien ici est déjà venu parler d'un certain Godzilla et d'autres films qu'il avait vus au PIP.
Moi, j'avais proposé, si un jour vous faites un film de Lynch... faudrait m'inviter.
Évidemment.
Et je pensais à Eraserhead aujourd'hui et je me suis dit ça, ce serait un bon film. Ce serait un bon film.
C'est le plus jumpscarisable du lot, je pense.
C'est vrai, de tous les Lynch, avec peut-être... sinon, c'est Firewalk With Me, là, ça devient... Là, ça devient dur. Là, c'est dans le dur, c'est de l'inceste et tout. C'est
lourd.
Voilà. Alors que Eraserhead, je pense qu'il y a en plus les thèmes,
c'est
etc. Sympa. Ouais, il y a de quoi dire.
C'est beaucoup plus sympa. Ouais. En effet, tu seras bien sûr convié si on aborde Lynch. Alors, on nous harcèle pour faire du David de Coteau, c'est tant pis. Ceux qui connaissent David de Coteau savent ce que c'est.
Je sais pas qui est David
Donc,
de Coteau.
Ça va très loin là.
Ça va loin. Donc en fait, Lynch, il y a le temps parce que les gens sont pas intéressés par Lynch. Ils veulent qu'on subisse le pire truc possible. Ils sont là pour ça, ces gros fourbes.
C'est chaud.
Mais enfin voilà.
J'ai déjà parlé de tous les films de Lynch dans mon podcast Lynch Planning. Donc si ça vous intéresse, j'ai aussi fait un épisode sur Eraserhead. Et donc j'ai déjà tout ça, c'est sorti de mon système déjà. Tu vois, au moins je vais pas venir frapper à ta porte à 5h du mat en disant je veux faire Lynch.
Dans la poche,
je veux faire Lynch.
Non mais en tout cas. Tu seras convié sans aucun problème. Voilà, c'est un podcast.
Cool, c'est gentil.
Je reprends bientôt. Là, on est en pause. Et d'ailleurs, en exclu, je ne sais pas si le podcast il sortira avant l'épisode ou l'annonce, mais on reprend le 23 février. Là, on
fait. Pas sûr, ça dépend si j'ai fini de monter l'épisode d'Harry Potter que je monte depuis 2 mois.
Les reliques de la mort, partie 2.
Le fameux.
C'est en train de me tuer.
Voilà, on va faire du Freddy en présence du réalisateur Jack Sholder, qui a réalisé Freddy 2, du coup. On essaie de donner la parole au réalisateur en fait quand on peut. On a d'ailleurs eu Sébastien Vanitschek pour Vermine, on a eu Mathieu Turi pour Gueule Noire. Enfin voilà, c'est un podcast tout terrain et on aime bien voir les gens du milieu avec nous.
Il y a Robert Englund qui vient bientôt là au Paris Comic Con.
Robert Englund qui vient au Comic Con Paris et qui fera payer autographe 125€, bien sûr.
Moi, j'aimerais
125€ que je sortirai de ma poche, hein, je l'assume entièrement.
Moi, j'aimerais beaucoup inviter les réalisateurs, mais bon, le dernier film que j'ai fait, j'allais dire j'aurais pu inviter Spielberg, mais non, c'est Indiana Jones 5, donc c'est pas Spielberg lui-même, quoi. Mais ça aurait été sympa pour pas mal de films où je me dis, par exemple, quand j'ai fait Les Infiltrés, j'ai Scorsese qui vient, là, ça aurait été plutôt sympa. Mais j'ai eu le seul français que j'ai fait dans toute la saga, c'est Jean-Pierre Jeunet. C'est
Jeunet, c'est vrai.
C'est le seul français, en gros, dont j'ai parlé dans toute la saga. Donc, j'espère un jour tomber sur une saga française. J'ai toujours pas fait de saga française depuis le début de l'histoire du podcast. Quoi.
Ah bah, les gendarmes à Saint-Tropez.
Je sais pas.
Tu vas te taper les visiteurs, tu vas suer. Mec.
Le Marcel Pagnol-verse.
Marcel Pagnol-verse. Non, mais il y en a plein. Il y a même la trilogie 3 couleurs. Enfin, en vrai, si tu cherches.
Les visiteurs.
Antoine Douanel. Il y a
Fantomas.
Fantomas. OSS 117, Astérix, enfin ouais, voilà, et c'est pas ça.
Mec.
Le Ducoverse. Les tuches. Non, vraiment, vraiment, il y a de quoi faire, mais je suis jamais tombé dessus. Il y en a toujours dans le chapeau.
Ça viendra.
Et je suis jamais tombé dessus. Et donc, ce serait sympa parce que je pourrais inviter des acteurs, des gens qui ont bossé sur chacun des films. Bon, peut-être pas pour les gendarmes, mais ils sont peut-être tous morts, les gens qui ont.
Non, mais tu peux avoir Patrice Lecomte.
Il est où Galabru?
Tu peux avoir Patrice Lecomte si tu fais les bronzés.
Patrice Lecomte, ouais, ce serait génial. Merci beaucoup, messieurs. Ganda. Merci d'avoir écouté cet épisode sur Evil Dead, les amis. C'était sympa de se replonger à nouveau dans cette saga. De temps en temps, il y a des sagas qui reviennent comme ça et ça permet de revisiter. Je me demande quelle autre saga on va revisiter bientôt. Ghostbusters. Je suis pas chaud. Je suis pas très chaud. Je crois que c'est tout. Si je me trompe pas, vous me dites. Faites-moi signe sur @lasagapod. Sur Twitter ou sur Instagram pour me dire si j'ai oublié des films. Sur le Patreon, actuellement, il y a un épisode sur le film Zodiac avec Océane Zerbini et Stéphane Boulet où on a parlé donc du film, un petit peu de l'enquête aussi, parce que je prépare un petit podcast en quelques épisodes sur le Patreon sur le tueur du Zodiac. Voilà, c'est un sujet assez étrange, mais... J'avais fait un sondage sur le Patreon et les gens avaient voté pour ça. Donc, je vais parler un petit peu de Zodiac. Et étant donné que c'est un de mes films préférés, c'était sympa de pouvoir en parler. Un grand merci à Océane, Yann, Ced, Miss Lizzie, Béa, Claire, Guilhem, Louis, Vincent, Romain, Dylan, Elvire, Luna, Pascal, Charles, Michel, Alexis, Franck, Gérard, Dabor, Lorraine, Rémi, Aurel, Mondigus, Lobarithme, Selim, Pierre, Seb, Monsieur Hobby, Benoît, Clem, Punky, Cyrus, Sam, Didier, Fly, Nicolas, Jonathan, Arnaud, Snafu, Johan. C'est quand même plus sympa quand vous avez des petits noms. Là, juste lister les noms comme ça, je trouve pas que ce soit aussi sympa. Donc je vais essayer de trouver des petits noms pour la prochaine saga. D'ailleurs, je vais être obligé de dire ce que c'est la prochaine saga, alors que l'épisode sur Harry Potter n'est pas encore sorti pour tout le monde. J'en étais où ? Benoît, Piu, Ludwig, Timothy, Julien, Mathilde, Michael, Clément, Asmod, Shakiboul et Vi. Merci beaucoup de m'apporter votre soutien tous les mois, vous et les autres membres du Patreon. Vraiment merci. J'ai traversé, on va dire, 6 mois. Assez difficile et vous êtes encore là et donc je tiens à vous remercier. Je vais être obligé de dire le nom de la prochaine saga alors que j'ai pas encore fini de faire le montage d'Harry Potter 8. Dans le prochain épisode avec mes invités, on vous parlera de Mad Max. À la prochaine. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera.